Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Bienvenue dans Les vraies voix sur Sud Radio, les vraies voix de 17h à 20h et un trio de choc aujourd'hui. A commencer, c'est un jour un peu spécial, par Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, et on va le présenter en chanson par un groupe mythique que vous adorez. Vous reconnaissez ?
Tout de même.
Les Beatles.
Voilà.
Alors on vous le souhaite.
Que gentil, quel délicatesse.
On vous le souhaite Happy Birthday, puisque c'est votre anniversaire.
Ah ben c'est vraiment
un
gentil.
Un excellent anniversaire, mon cher Philippe.
C'est quasiment la première fois aujourd'hui. C'est un touchant. Mais je ne saurais me plaindre de cet excès de tendresse médiatique et j'espère sincère.
Alors on vous souhaite un excellent anniversaire et on rappelle qu'il est magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole. Ce n'est pas son anniversaire aujourd'hui, mais on accueille Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre « Assimilation, en finir avec ce tabou français », publié aux éditions de l'Observatoire. Vous, je crois, c'est fin décembre, c'est ça ?
C'est toute fin décembre, c'est assez mal placé. Quelle c'est entre Noël et le Nouvel An, en général, il n'y a plus personne.
Ah bah là, vous faites partie de ceux
vous
qui n'ont pas...
Vous avez deux cadeaux. Tout
non, non, en général,
non,
on cumule les deux.
Non, en général, on dit non, mais t'as déjà eu un Noël, mais bon, voilà, je me suis fait une raison. Je ça, décale, du coup.
Ma belle-sœur est née le 25 décembre, c'est pire.
Par
c'est
contre,
pire.
Pour votre parent, vous étiez une excellente affaire fiscalement, parce que vous y avez une demi-part l'année de votre naissance.
Ça, je
ah oui,
j'ai
alors que si vous étiez né le 1er janvier, vous aviez une demi-part l'année suivante.
Franchement.
Je découvre quelque chose.
Et pour le débat, il y va à fond, on est content de le retrouver, c'est un fan de rugby. On peut dire qu'il rentre dans la mêlée.
Tout à fait.
Supporter de l'ASM Clermont-Auvergne, ancien député, porte-parole de Génération. Bonjour Michel Pouzol.
Bonjour.
Vous, votre anniversaire, c'est au printemps, c'est ça
le 5 juillet.
5 juillet, début de l'été.
Je suis né le jour de l'indépendance algérienne, le 5 juillet 1962.
Ah oui, effectivement. Ah oui.
Mais vous êtes assez pour les mêlées ouvertes, vous, Michel.
Pas fermé. Pour les mêlées ouvertes, fermées,
mais
dans
fermé
tous les
pas
sens.
Trop.
En version moderne, les rocs et les moules. On va dire ça comme ça. Nos débats à 17h30. Futur avion de chasse européen, les intérêts de la France ont-ils été bradés ? Oui, c'est hier soir qu'a été signé l'accord entre Dassault et Airbus. Et a priori, Dassault amène toute la technologie, mais n'aura que 38% du travail sur le futur avion de combat du futur. Alors, ça commence à faire beaucoup, puisqu'on a Nexter, l'ex-Nexter, qui maintenant est passé plus ou moins sous contrôle allemand. Alstom, c'est devenu américain, etc. Est-ce qu'on défend vraiment nos entreprises technologiques et nos entreprises stratégiques et notre industrie ? On en débattra de 17h30 à 17h50. À 17h50, on aura la chronique sur la présidentielle de Philippe Rossi. Et à 18h30, notre second grand débat, la rentrée sociale va être chaude. Oui, hier soir, les syndicats se sont réunis et ont décidé d'une journée d'action le 5 octobre prochain. Alors, pas tous les syndicats. Et on aura notamment avec nous Joseph Touvenel, le secrétaire confédéral de la CFTC, qui n'appelle pas à manifester. Ça va, les vraies voix ?
Très bien.
Parfaitement. En pleine forme. Est-ce qu'à votre avis, je suis de bonne ou de mauvaise humeur aujourd'hui ?
Vous êtes toujours de bonne humeur.
Eh bien, écoutez, j'ai...
Vous m'avez déjà fait le coup hier.
Ah oui, alors on recommence l'émission, c'est la deuxième journée, je ne suis toujours pas content et je suis obligé de rebondir sur le tour de table de l'actualité de notre ami Philippe Bilger d'hier pour pousser un coup de gueule sur les nouvelles élucubrations, non pas d'Antoine, mais de Sandrine Rousseau, la candidate à l'investiture d'Europe Écologie Les Verts. On écoute les propos qu'elle a tenus hier.
On doit profondément modifier les racines de ce qui est aujourd'hui à la source de notre malheur. Et les racines, c'est les trois choses dont je viens de dire, qui se traduisent aujourd'hui par à la fois du racisme, à la fois une incapacité à penser la colonisation, et enfin une incapacité à penser la place des femmes dans la société, autrement que par des concessions qu'on leur fait.
Alors, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau délire de Sandrine Rousseau. Là, le dernier, je lis d'ailleurs son tweet. Le système capitaliste s'est nourri de trois prédations majeures, à savoir celle du corps des personnes noires, des femmes et de la nature. Il va nous falloir revoir en profondeur le système économique et social pour le mettre au service du climat et de la justice sociale. Alors moi, je n'en peux plus de dire qu'il y a des éternelles victimes et des éternelles coupables. Et je tiens à rappeler à Sandrine Rousseau que les gamins de 5 ans qui descendaient dans les mines, comme chantait Jean Ferrat, vous savez, dans la chanson « Ma France », on l'a vu dans Germinal, notamment le livre de Zola et le film qui a été fait quelques années après, notamment avec Renaud, que les gamins qui descendaient dans les mines, c'était pas des femmes, c'était pas des noirs, c'était gamins qui étaient français dans le Pas-de-Calais, qui étaient allemands dans la Ruhr, qui étaient anglais dans les Midlands. Et je n'en peux plus de ces politiques, qu'ils soient Europe Écologie Les Verts ou quoi que ce soit, qui mettent toujours en avant la race ou le sexe pour dire qu'il y en a qui sont d'éternelles victimes et d'autres d'éternelles coupables. Je pense pas que vous soyez d'accord avec moi, Michel Pouzol.
Alors, autant...
Mais je peux vous dire une chose, autant, si Europe et l'écologie, les Verts se plantent, ce sera peut-être pas de la faute à Voltaire, mais ce sera en tout cas de la faute à Rousseau.
En tout cas, bon, la formule est élégante et je vous reconnais bien là. Je ne peux pas vous dire que je partage chaque phrase de Sandrine Rousseau. D'ailleurs, moi, je suis impliqué dans la primaire écologiste, je la respecte tout à fait. Ce n'est pas ma candidate. Voilà, moi, j'ai choisi un autre candidat dans cette primaire-là. Mais qui peu importe, c'est parce que, qui est Éric Piolle, le maire
de... Vous n'avez pas choisi l'homme de droite de la primaire.
Ça vous étonne toujours.
Oui. J'ai
mais
toujours
bref,
de l'espoir,
il n'y a pas d'homme de droite, il y a des écologistes qui sont tous plus ou moins progressistes, malgré tout. Malgré tout ce que vous dites, moi, j'entends ce que votre coup de gueule sur les enfants dans les mines, etc., c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et vous savez que l'histoire de la classe ouvrière, c'est l'histoire de ma... C'est mon histoire, c'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de beaucoup de Français. Mais je pense qu'il est, il y a aussi un mauvais procès à vouloir hiérarchiser ou comparer ou mettre dos à dos les douleurs. L'époque coloniale a laissé des marques indélébiles dans certains pays. On sait bien en France, on est un pays particulièrement où le bilan de cet héritage n'a pas été fait, notamment avec l'Algérie, on le sait bien. Et c'est bien pour ça que ça reste encore au cœur de beaucoup de nos débats, alors que dans d'autres pays qui ont été aussi colonialistes que nous, les plaies ont été, je dirais, un peu plus soignées, ou en tout cas qu'on a mis les débats sur le truc. Nous, on n'a pas mis le débat pendant 20 ans sur ce sujet-là.
Vous l'entretenez surtout.
Donc, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas pour qu'on mette dos à dos et qu'on hiérarchise les douleurs. Il est vrai que la condition féminine mérite encore un combat qui n'est pas terminé. Il est vrai que, d'une certaine façon, on n'a pas tiré, mais je pense plus d'ailleurs par rapport à la manière dont on conçoit notre société, nous, ici, en métropole, que dans les pays des ex-colonies. On n'a pas, peut-être, on n'est sans doute pas allé jusqu'au bout. Est-ce que ce sont aujourd'hui les combats fondamentaux? Ce sont des combats essentiels, mais je crois qu'on a d'autres combats aussi, sociaux, pour l'égalité, pour l'environnement. Je pense que pour l'environnement, on peut rien... on est très en dessous de ce qui est nécessaire. Donc je ne jetterai pas Madame Rousseau avec le bébé, avec l'eau du bain. Je ne partage pas tout à fait cette façon de préciser les choses qu'elle utilise, mais je dois reconnaître que sur le fond, je ne peux pas m'extraire totalement de ces combats.
Lydia Guirousse.
Bah Sandrine Rousseau, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et à chaque fois qu'il y a une sortie de Sandrine Rousseau, on croit halluciner tellement c'est plein d'islamo-gauchisme, de repentance, de culpabilisation de la France. Enfin, c'est des sorties qui sont dans la droite ligne de cette pensée woke américaine qui est juste insupportable. En fait, je pense que cette extrême gauche-là, Europe Écologie Les Verts, elle a abandonné la lutte des classes pour la lutte des races et elle a une clientèle électorale qu'elle essaye de caresser dans le sens du poil. Vous soutenez Monsieur Piolle, mais Monsieur Piolle aussi. Vous, tout à l'heure, vous parliez de la condition des femmes en France. La condition des femmes en France, moi, je trouve qu'Europe Écologie et Les Verts sont toujours dans la politique de l'autruche dès lors qu'il s'agit de l'islamisme et de ce que l'islamisme fait subir aux femmes en termes de négation de leurs droits, de leur effacement aussi dans l'espace public, de leur d'atteinte à la dignité des femmes. Et là, vous avez Europe Écologie et Les Verts qui va trouver toutes les excuses du monde pour justifier l'injustifiable, comme sur le burkini, par exemple, ou tant d'autres sujets où ils sont toujours là du côté de ceux qui oppressent les femmes et jamais du côté de l'universalisme. Donc moi, je trouve que Sandrine Rousseau, en fait, reflète cette partie de la gauche qui n'aime pas la France et trouvera toujours dans l'histoire et même aujourd'hui dans les actions plus contemporaines des éléments pour pouvoir taper sur la France. Et ça, c'est détestable.
Philippe Bilger, vous n'êtes pas Jean-Jacques Rousseau, êtes-vous Sandrine Rousseau?
Non, je suis très agacé à l'égard de moi-même, parce que hier, j'ai vous l'avez rappelé, Philippe critiquait une phrase de Sandrine Rousseau qui préférait les femmes qui jettent des sorts aux ingénieurs fabriquant les EPR. Je n'ai pas réfléchi hier, mais je suis un peu perturbé parce que même face à ce que je considère comme des billevesées relativement peu fondées, il y a toujours une petite once de réflexion qui m'oblige à m'arrêter un petit peu. La phrase que vous avez citée, elle n'est pas complètement absurde. Je veux dire, et même quand vous prenez l'exemple des mines, je ne sais pas si on pourrait imputer cette misère au capitalisme, mais à la limite, elle vous dirait, signe, absolument. Donc vous voyez...
Excusez-moi, mais les conditions de travail des mineurs en Chine ou en Union soviétique n'étaient pas faciles non plus.
Hein. Ah mais la question n'est pas
sûr.
Là.
Mais
mineurs, c'est un métier particulièrement dur.
Donc j'arrête là, Philippe, je veux dire, je suis hostile à ce qu'elle a dit là, je le trouve tout de même trop schématique, mais en même temps, les êtres intelligents, et elle l'est, ne jettent jamais rien dans l'espace intellectuel sans qu'on soit un peu obligé un tout petit peu de s'y arrêter.
Mais elle le jette parce qu'elle a besoin qu'on parle d'elle. Elle est candidate à une primaire, personne ne la connaissait en dehors de l'affaire de Denis Baupin. Et aujourd'hui, avec ses sorties qui sont, comme je le disais, surréalistes et qui sont caricaturales à souhait, pour ne pas dire autre chose, elle se fait un nom. Elle se fait un nom par le pire, mais elle se fait un nom quand même, et avec une pensée qui peut plaire à l'électorat Europe Écologie Les Verts.
On a encore une seconde.
Allez-y.
Hier, je vais citer quelqu'un avec qui je ne suis pas toujours en accord.
Françoise
de Goix, qui disait une chose juste sur l'écologie. Elle disait que les leaders écologiques étaient généralement des intellectuels. Ils ne sont pas les seuls, mais ça peut expliquer certaines déclarations. Leur portée abstraite.
Ça explique peut-être aussi une déclaration de Michel Audiard qui disait qu'un intellectuel de gauche assis ira toujours moins loin qu'un con de droite qui marche.
C'était pas tout à fait
c'était
ça.
C'était Audiard.
C'était Audiard qui, dans ma circonscription, il disait plutôt deux idiots qui marchent iront plus loin qu'un intellectuel.
Il avait fait l'autre version aussi. Le mot de la fin très rapide.
Non, je comprends qu'aujourd'hui il y a un tir de barrage sur Madame Rousseau. Ça va continuer jusqu'à la fin de la primaire. Rassurez-vous, vous allez avoir des occasions, je pense, d'autres. Moi, je constate que chaque fois qu'un écologiste, un responsable, un élu, un maire dit une phrase sortie souvent de son contexte, qu'on monte dans les tours immédiatement. J'aimerais beaucoup que dans ce pays où le Front National, l'extrême droite monte chaque jour un peu plus, on ait la même vigilance avec ce qui se dit dans les médias. J'ai écouté des phrases ces derniers jours qui sont absolument délirante. Je crois que j'ai quelqu'un qui se veut aussi candidat à la présidentielle a expliqué que les dealers n'étaient pas des dealers, mais les terroristes islamistes. Je voudrais quand même ça, c'est passé.
Qui est-ce qui a dit ça?
Éric Zemmour, voilà, tout simplement. Donc c'est quand même des choses qui passent comme ça, comme une lettre à la poste, et tout le monde s'en fout. Donc j'aimerais bien qu'on ait la même vigilance pour tout le monde, et croyez-moi, on pourrait faire des débats tous les jours, et être en colère tous les jours.
On l'aura sur Sud Radio.
Mais Michel, vous avez l'art de lancer un sujet. Il y aurait beaucoup à dire sur votre dernière phrase.
Eh bien, il y aura beaucoup à dire. Vous êtes bien sur Sud Radio, Les Vraies Voix. Il est 17h16. On se retrouve dans quelques instants pour le tour de table de l'actualité.
Toute la journée, elle fait la, la, la,
la. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Michel Pouzol. Le tour de table de Lydia Guirous. Ça va mieux, disait François Hollande. La vie normale va recommencer, dit Jean Castex, c'est ça?
Eh oui, encore une sortie de Jean Castex qui va nous dire que la vie normale va recommencer. On se demande à quoi ressemble la vie normale, hein, puisque c'est tellement, il y a tellement, tellement longtemps, ça semble tellement lointain. En juin, juste avant les régionales, on nous avait dit fini le masque, puis on nous a dit les restaurants réouvrent, y compris en intérieur, et puis quelques semaines après, c'était... Le couperet est tombé, tout referme, sans passe sanitaire, etc. Vaccination pour tout le monde de manière indirecte avec ce passe sanitaire. Et aujourd'hui, vous avez donc le Premier ministre qui nous indique que la vie normale, c'est pour bientôt. Alors même qu'il y a quelques jours, Olivier Véran, le ministre de la Santé, donc, nous dit que le passe sanitaire, ce ne sera pas uniquement jusqu'au 15 novembre, mais très probablement, sauf si la Covid disparaît, ce qui n'est pas près d'arriver, ça sera prolongé. Donc on se demande à quoi il joue, d'autant plus que M. Delfraissy nous a dit que l'épidémie pourrait se poursuivre vraisemblablement jusqu'en 2022-2023. Je trouve que ce genre d'annonce de « c'est pour bientôt la vie normale puisque la rentrée approche » est de nature quand même à ajouter de la défiance à à la défiance qu'ont déjà les Français et beaucoup d'inquiétudes. Et c'est pas très heureux de la part du Premier ministre.
Philippe Bilger.
Ma chère Lydia, je dois être aujourd'hui gangrené par une sorte de tiédeur intellectuelle et politique.
Ah, c'est votre anniversaire, c'est
parce
normal.
Que
ça doit être sans doute pour ça.
Je vous trouve, mais encore une fois, je suis pas un spécialiste de tout ça, très sévère tout de même. Parce que peut-être que la phrase de Jean Castex est maladroite, mais peut-être que j'en ai parlé ce matin et c'est pour ça que je reviens dessus. Il me semble que sur le plan sanitaire, alors que les débuts ont été totalement calamiteux, je suis obligé de reconnaître une sorte d'embellie sanitaire en ce qui concerne les vaccins. Alors ça ne veut pas dire que...
Ce n'est pas le sujet de mon coup de gueule, si je peux dire, d'aujourd'hui.
Un peu tout de même, parce que je songerais moins à critiquer Jean Castex. Évidemment, on n'a pas retrouvé la vie normale dans son intégralité, mais ça n'est pas complètement absurde avec la politique réussie des vaccins qui, peu à peu, me semble-t-il, nous conduit vers une urbanité et une civilité plus facile. C'est tout.
Michel Pouzol.
Oui, c'est très difficile de se retrouver dans la jungle de la communication gouvernementale sur la Covid-19, mais ça va faire bientôt 2 ans qu'on en parle sur ces antennes et régulièrement.
Les fameuses injonctions paradoxales.
Plus que paradoxales, puisque on a entendu tout et son contraire. Et d'ailleurs, il faut le dire, hein, y compris d'une partie du corps médical, hein, qui s'en est bien mêlé, qui
bien
a
sûr.
Été à la hauteur des politiques, ce qui quand même
parfois
est un exploit. Ouais. Je sais de quoi je parle. L'idée de reprendre une vie normale est très contradictoire avec ce qu'on est en train de faire passer comme message aujourd'hui, c'est-à-dire vaccinez-vous. Moi, je le dis, si j'ai un message à faire passer, c'est vaccinez-vous et allez au bout de la vaccination. Vaccinons les plus de 12 ans. C'est le seul moyen de sortir du risque ultime de la pandémie, parce que le risque, c'est quand même la maladie grave, de longue durée, voire la mort. Donc ça, c'est le premier message. Et puis, une fois qu'on sera arrivé à ce niveau-là et que les vaccins se seront révélés être suffisants ou pas, eh bien, on pourra voir comment on revit. Mais je voulais juste vous dire une chose. Je parlais du pass sanitaire ces quelques jours, j'ai fait un peu une analogie. Je disais que pour les 50% de Français qui vont au maximum une fois par an au restaurant, pour les 40% de Français qui ne vont jamais en vacances, pour les 80% de Français qui ne prennent jamais l'avion pour aller à l'étranger, pour les 75% de Français qui ne vont jamais au sport d'hiver et donc qui vont rarement au théâtre, au cinéma, eh bien figurez-vous que le pass sanitaire n'est pas la préoccupation principale. Le pouvoir d'achat, oui. Il faut aussi remettre dans le débat public une des réalités de ce pays-là qui est en train de passer sous le tapis. Je sais qu'on va en parler tout à l'heure à propos de la rentrée. Attention, oui, on a le problème du pass sanitaire. Nos libertés ne sont pas tout à fait entachées. La liberté de tous passe par la vaccination de chacun. Et je crois que c'est un vrai message qu'il faut faire passer. Et si le gouvernement, je sais qu'il le fait, mais il devrait le faire encore plus fortement.
Et votre tour de table, il est beaucoup plus léger, vous, Michel Pouzol. Alors ça va faire plaisir à Philippe Bilger. Je sais pas vous, Lydia Guiraud.
Alors, c'est
un coup de cœur.
C'est un coup de cœur. Alors, mais mes copains de mon mouvement politique vont dire quoi ? Tu perds ton temps d'antenne pour parler de ce genre de choses ? Mais bon, vous le savez, vous l'avez dit, je viens du monde du rugby.
Vous êtes auvergnat.
Voilà, je suis auvergnat, je suis assez chauvin. Peu enclin au football, mais quand même, je vais vous faire une anecdote de football aujourd'hui pour une fois. Quand on a appris que Lionel Messi venait signer à Paris, sur les réseaux sociaux, il y a eu un déferlement de gags sur le petit club qui montait en Ligue 1 de Clermont-Ferrand, Clermont Foot, et en se disant, ah oui, mais Lionel Messi veut absolument venir en France pour pouvoir affronter Clermont, visiter Clermont. Et donc tout le monde a beaucoup rigolé. Aujourd'hui, après 4 journées du championnat, le club est toujours invaincu. C'est le seul club de Ligue 1 qui n'a jamais perdu un match.
Ah non, le PSG n'a pas perdu cette saison.
En Ligue 1,
ah oui,
dans l'histoire.
Oui.
C'est le meilleur démarrage. C'est le meilleur démarrage d'une équipe d'un promu depuis 25 ans. Donc le petit poussé auvergnat qui a un budget, je le dis comme ça, qui est 2 fois moins que le seul salaire de Messi, 2 fois moins pour tout le budget, pour l'instant, écoutez, les Auvergnats, les Bougnats, ils s'en sortent pas si mal. Et le prochain, pourquoi je fais ce coup de cœur et je les salue, parce que ils ont un jeu en plus plaisant, ils jouent en attaquant,
ils
prennent des risques.
Ils menaient 3-1 à Lyon, ils reviennent à 3-3
sur la dernière mi-temps. Ils sont pas avares de talent.
Ils sont pas avares de talent.
Et des Auvergnats pas avares.
Le prochain match, ça sera contre le PSG à Paris pour la première de Lionel Messi à Paris. Donc,
ça vaudra la peine.
Espérons un miracle auvergnat, ça serait formidable, un volcan au Parc des Princes.
Ah, moi, non, excusez-moi, plutôt, ce serait pas plutôt le petit Poucet face à Bibendum pour Clermont-Ferrand?
Oh, ça, s'il vous plaît, on avait dit pas le physique.
Non, mais c'était pas vous, Bibendum.
Si seulement Clermont pouvait gagner, je serais heureux comme
ça. Ça serait une belle histoire, en tout cas.
Ah, ben là, voilà, je vous ai fait partager une belle histoire aujourd'hui potentielle.
Je peux vous dire autre chose, s'ils viennent gagner au Parc des Princes, jouer à côté match, là, vous vous payez, à mon avis, une voiture minimum si vous mettez une grosse cote, parce qu'à mon avis, elle va être énorme.
Et il y a des directeurs financiers de grands clubs européens qui vont commencer à faire la gueule en se disant qu'ils se sont fait arnaquer en achetant certains joueurs.
Ça, on verra bien.
Mais on n'en est pas là.
Oui.
Mais donc, déjà, les quatre premières journées sont fantastiques.
Vous y allez,
bravo,
Michel ?
Non.
Vous pouvez
pas ? Non, je ne suis pas invité. Les places sont trop chères pour des gens comme moi.
Votre réputation politique n'aurait pas permis d'avoir des places pour nous deux ?
Je ne suis pas... Ah, pour vous deux, j'ai l'air, parce que moi je ne prends pas les passes droits, mais pour vous deux, je vais voir si je peux faire un effort.
Philippe Bilger, ancien avocat général, en corruption active, en direct, dans les vraies voix sur Sud Radio.
Avec la gauche,
la collusion
de Philippe Bilger avec la gauche.
Et 26 minutes, il y avait la gauche morale, c'est encore la gauche morale et la droite amorale. Je ne parle pas de vous, Lydia Guirousse. Les vraies voix, 17h27, dans quelques instants, notre premier débat. Futur avion de chasse européen, les intérêts de la France sont-ils bradés ? Oui, on va en parler, puisque ça a été signé hier soir, l'accord entre Airbus, Dassault, c'est-à-dire évidemment avec l'aval des gouvernements. On sera avec Philippe Meunier, vice-président des Républicains de la région Auvergne, qui a été député et qui était en charge de la secrétaire de la commission de la défense à l'Assemblée nationale jusqu'en 2017. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Vous voulez réagir ? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Michel Pouzol.
Les vraies voix Sud Radio.
Les chevaliers du ciel, dans un puits de tonnerre.
Ah, ça rappelle des souvenirs, hein. Les chevaliers du ciel, vous vous rappelez Tanguy et la Verdure, les pilotes de chasse sur Mirage 4 de mémoire.
Oui.
L'Allemagne, l'Espagne et la France, et puis ça fait toujours plaisir d'entendre Johnny. L'Allemagne, l'Espagne et la France ont signé l'accord intergouvernemental pour la poursuite du programme SCAF, système de combat aérien futur. Chaque pays va mettre 3 milliards d'euros hors taxes pour les études et en contrepartie, Dassault obtiendra 38% de la charge de travail et Airbus 62%, répartis entre l'Allemagne 32% et l'Espagne 30%. Un marché de dupes pour certains qui avancent que toute la technologie des avions de chasse est détenue par Dassault, société française, et pas par Airbus, société européenne. Nous sommes en compagnie de Philippe Meunier, vice-président républicain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de la sécurité, et ancien secrétaire de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Philippe Meunier, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que cet accord est un marché de dupes ?
Ah, disons que pour l'instant, c'est un accord politique entre un exécutif allemand qui est sur le départ, parce que nous avons des élections au mois de septembre. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner en termes de politique menée par l'Allemagne, notamment dans le cadre de l'armement. Parce que vous savez qu'en Allemagne, il y a des résistances très fortes à continuer à produire des armes, et notamment à les exporter. Et puis, on a aussi des élections en France en 2022 qui auront un intérêt majeur par rapport à l'industrie de la défense, à savoir... Est-ce que nous gardons une souveraineté nationale ou est-ce que nous allons vers cette course en avant que mène le président Macron déjà depuis un certain temps vers son rêve qui est celui d'une Europe fédérale. Il l'a déjà fait quand il était ministre de l'économie, quand il a passé l'accord avec Nexter et KMB pour créer KNDS, où on avait un accord avec les Allemands pour remplacer le prochain
char Leclerc. Là, c'était normalement les chars d'assaut, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça, mais ça va de pair, si vous voulez. C'est la même logique, en fait. C'est-à-dire que ce qui reste de force, entre guillemets, industrielle pour la France, aujourd'hui, c'est l'armement. C'est là où nous sommes encore très performants et où nous avons encore de la compétitivité, de la compétence, et nous sommes vraiment dans les premiers. Eh bien, M. Macron utilise cette compétence-là pour négocier avec l'Allemagne, pour essayer d'avancer vers cette Europe fédérale, parce que c'est son rêve politique. Il en a le droit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, si nous allons dans ces accords-là, vont perdre de la souveraineté, de l'indépendance. Et au final, c'est l'Allemagne qui gagnera, parce qu'on le voit bien... que ça soit sur le char d'assaut ou sur le SCAF, les répartitions de charges qui au départ ont été programmées, aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Et plus on avance, moins les Français ont de la charge. Donc à l'arrivée, on donne de plus en plus de pans entiers de nos technologies et de nos compétences à nos partenaires européens, au détriment de la compétence française et de ce qui fait encore sa force à l'international, notamment au niveau industriel.
Philippe Bilger.
Monsieur le Président, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais à partir du moment où je ne suspecte pas le Président de manquer de patriotisme industriel, qu'est-ce qui peut justifier, à votre avis, ce processus qui, semble-t-il, est dénoncé ?
Mais parce qu'il n'a plus de patriotisme industriel. En tous les cas, il n'a pas un patriotisme national. Son patriotisme est européen. Monsieur Macron, son rêve, c'est l'Europe fédérale. Mais tout le monde le sait. C'est son logiciel politique. Il en a le droit. Mais il ne faut pas mentir aux Français. Si nous continuons à aller dans cette direction-là, nous allons perdre de la souveraineté nationale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer des accords avec d'autres pays, y compris d'ailleurs avec la Grande-Bretagne, hein, ou d'autres pays du monde. Pourquoi forcément passer un accord avec l'Allemagne ? Personne ne s'interroge de savoir pourquoi on force les industriels français à passer un accord avec l'Allemagne. Pourquoi on n'ouvre pas avec les industriels anglais qui sont aussi sur un modèle d'avion de chasse en préparation qui s'appelle le Tempête ? Pourquoi on ne travaille pas par exemple avec les Coréens du Sud ? Pourquoi on ne travaille pas avec d'autres nations ? C'est parce que c'est uniquement pour des raisons politiques, à savoir l'intégration européenne, la constitution d'une Europe de la défense et d'une Europe fédérale. C'est le projet de M. Macron, c'est son rêve politique. Je répète, il en a le droit. Mais il faut dire aux Français la réalité des faits telles qu'ils se présentent devant nous. Et il ne faut pas me dire qu'on ne peut pas faire un avion de chasse avec d'autres partenaires ou commencer à travailler sur le remplacement du Rafale seul. Je vous rappelle quand même que le Rafale sera remplacé en 2040, que nous avons les moyens, si nous le souhaitons et si nous en avons la volonté, de commencer à travailler sur son successeur sans être obligé de passer par les fourches codines allemandes, comme ça a été le cas pour le char d'assaut, où vous vous rendez compte, et ça je l'ai dit en commission de la Défense il y a déjà quelques années, on commence par un accord à 50-50 et vous verrez qu'on finira à 25% parce que jamais Krupp, écoutez-moi ce que je vous dis, n'acceptera de laisser la production d'un char ou d'un canon de char aux Français. Et les Allemands qui n'ont plus la compétence pour construire un avion de chasse depuis mai 45 parce qu'ils ont perdu la guerre, attendent avec impatience la réalisation de ce SCAF pour retrouver des compétences et reprendre le leadership. Encore une fois, je ne critique pas les Allemands, ils sont Allemands, ils sont patriotes, ils défendent leurs intérêts, ils en ont le droit et même le devoir. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut que les Français sachent dans quelle direction le président Macron est en train d'amener la seule industrie où nous avons encore de la compétitivité.
Votre ex-collègue à l'Assemblée nationale, Michel Pouzol.
Oui, la question de la défense européenne, c'est une véritable question qu'il faut se poser. Enfin, je veux dire, notamment sur le théâtre des opérations africaines au Mali, la France assume seule, au niveau européen, la défense de l'Europe sur les bases arrières du terrorisme. C'est un vrai sujet. Et nos investissements dans les forces militaires n'entrent pas dans le budget européen. C'est dès que on nous dit débrouillez-vous, payez le truc, payez la facture et protégez l'Europe. Donc il faut bien se poser une question. Après, l'histoire de l'industrie de l'armement, elle est un peu plus complexe que ce qui nous est présenté. On a eu un fiasco avec l'Eurocopter, avec des concurrences intra-européennes sur l'avion. Vous citiez le Rafale. Le Rafale, excusez-moi, moi je viens de l'Essonne, je connaissais bien le sénateur Dassault et avec qui nous parlions de ça. Le Rafale industriellement a été un échec parce que nous ne l'avons pas vendu à nos partenaires européens et il a fallu le vendre et il a fallu de la diplomatie à 18 bandes pour arriver à le vendre à l'Égypte via le Qatar etc. Donc excusez-moi, on a fait de la réelle politique sur le Rafale alors que cet avion là ne s'est pas vendu comme il aurait dû se vendre parce qu'il y avait une concurrence internationale. Donc il va bien falloir, si on veut développer une industrie de l'armement européenne, et je veux pas défendre Macron et je ne sais pas de quelle manière le faire, mais de créer des coopérations. Un des grands exemples de ce qui a marché en Europe, et moi je ne suis pas un forcené de tout ce qui s'est fait, notamment sur le plan du social et du respect des individus, c'est quand même Airbus. Airbus a permis de concurrencer le Boeing sur l'ensemble planétaire. Donc moi je pense qu'effectivement, alors il n'y a pas forcément que l'Allemagne, effectivement, ou l'Italie, ou je ne sais quoi, mais une coopération sur un avion de chasse, me semble effectivement plutôt une bonne initiative, je vous le dis, parce que on ne le dit pas, si vous voulez qu'on dise toute la vérité aux Français, un jour il faudra dire aux Français ce qui a coûté à chaque ménage le Rafale. Ça n'a rien coûté à Dassault, ça c'est sûr, mais par contre aux ménages français, ça a coûté une sacrée fortune.
Philippe Meunier.
Non, mais enfin, je suis désolé de vous dire que c'est absolument pas argumenté. Sur l'Eurocopter, sur l'hélicoptère dont vous avez parlé européen, vous parlez du NH90. Tout le monde sait que le NH90 est un hélicoptère qui a été mal conçu, mal né, pour une raison simple, c'est qu'il est européen. C'est-à-dire que chacun a voulu mettre son grain de sel sur cet hélicoptère, y compris sur la taille des portes pour les Néerlandais qui sont plus grands que les Italiens. Et on sait très bien ce qu'il nous coûte à l'entretien et pourquoi on a un taux de disponibilité si faible. C'est parce que, de conception, cet hélicoptère est un hélicoptère européen et qui ne répond pas aux attentes, par exemple, françaises sur le théâtre d'opération du G5 Sahel. Tout le monde le sait. Et le Rafale, ce que vous me dites le Rafale, c'est coûter le Rafale aux Français. Mais vous savez ce qu'a coûté le Rafale aux Français? Est-ce que vous avez mesuré le nombre d'emplois qu'un Rafale aujourd'hui apporte à la France sur l'ensemble du territoire national? Mais ce sont des milliers d'emplois. Et il ne faut pas dire que ça nous a coûté les yeux de la tête. Ou alors dans ce cas-là, vous savez ce que vous faites? Vous allez voir les Américains ou les Allemands, et puis vous signez le chèque, et puis vous avez le matériel, et puis vous êtes content parce que vous construisez de bout d'aile.
C'est ce qu'ont fait tous nos partenaires européens. C'est ce qu'ont fait tous nos partenaires européens et internationaux. C'est vous dire si le succès est grand.
Non. Et laissez-moi terminer, je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas des partenaires européens. Ah. Ce sont des partenaires d'autres nations qui sont en compétition avec la France. Est-ce que vous croyez que l'Allemagne et la France, sur les marchés internationaux, ne sont pas en compétition? Vous voulez que je vous parle des navires de combat? Vous voulez que je vous parle des autres matériels, notamment des armes de poing ou des armes légères? Mais ce que vous dites est faux. L'Allemagne défend ses intérêts avant tout et elle a bien raison.
Parce que quand on est allemand,
et moi j'aimerais bien que les Français, et notamment la classe politique française, défendent un peu plus les intérêts de la France.
Je rejoins Philippe Meunier, que je salue par ailleurs, et je sais son niveau d'expertise dans le domaine. C'est vrai qu'il y a une constante en France, c'est une forme de naïveté, et on n'est pas très bon pour défendre les intérêts stratégiques de la France. La France pense aux intérêts européens quand l'Allemagne en face pense aux intérêts de l'Allemagne. Et ça, c'est vrai, c'est une vraie constante dans le couple franco-allemand. C'est sans arrêt ça. Il y a un transfert de technologie dans ce dossier qui, moi, m'inquiète. On apporte toute la technologie, on apporte toute l'expertise. Un transfert de technologie, ça veut dire que dans quelques années, en fait, ils sauront faire aussi bien, voire mieux que nous, et nous n'aurons plus davantage compétitifs. Et là, je me dis qu'on est petit à petit en train de déshabiller une partie de l'industrie française, ce qui nous reste encore d'industrie où on performe très, très, très fortement. Donc, ça, et sans parler de la perte de souveraineté. À un moment où, après la crise de la Covid, notamment les premiers mois, on nous a reparlé sans arrêt de la réindustrialisation de la France, de la protection des industries stratégiques. Et là, on voit ce dossier avec ce transfert technologique qui est absolument important et les intérêts de la France qu'on ne sait pas défendre. Il y a des clés, il y a des milliers d'emplois et il y a une question de souveraineté, comme l'a souligné Philippe Meunier.
Et Philippe Meunier, on part au 0826-300-300. Philippe Meunier.
Oui, je vous écoute.
Oui, excusez-moi, excusez-moi, j'en remets une petite louche. C'est vrai que quand on voit la France qui achète des fusils d'assaut, elle achète des fusils d'allemands avec leur Runcorps qui sont allemands. La France, on va dire que allez, l'Allemagne, elle défend les intérêts allemands, mais les Français, ils défendent les intérêts européens, c'est-à-dire les intérêts allemands.
Mais c'est exactement ça. Mais moi, je vais vous raconter une histoire et elle est véridique. Moi, je me suis opposé à la création de KNDS, c'est-à-dire la fusion de Nexter-KMB. Les comptes rendus de la commission de la défense de l'Assemblée nationale en font foi. À l'époque, on m'a expliqué qu'il fallait fusionner parce qu'en fait, KMB, les Allemands, étaient une entreprise familiale et qu'il fallait absolument faire alliance avec KMB pour contrer Rheinmetall, qui est une autre entreprise allemande. Parce que sinon, nous ne serions pas assez puissants. J'ai expliqué à la commission devant le ministre, qui s'appelle Monsieur le ministre de Le Drian à l'époque, que les actionnaires aujourd'hui de KMB étaient des actionnaires familiaux, mais qu'un jour ou l'autre, le créateur, le patron fondateur disparaîtra et que vous verrez, ils vendront leur part à Rheinmetall et que l'accord de 50-50 va être battu en brèche parce que Rheinmetall n'acceptera pas le 50-50. Et vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, les héritiers ont dealé avec Rheinmetall et c'est normal, Rheinmetall est une entreprise allemande. Et aujourd'hui, sur le char d'assaut, alors qu'on était parti sur 50-50, on en est à 75-25. Et c'est pas fini encore. Et vous savez ce que le patron de Nexter a osé me dire à l'époque? Je vais vous dire, parce qu'il faut que vos auditeurs le sachent, parce que je l'ai alerté sur le sujet. Il m'a dit, écoutez, monsieur le député,
Nous vendrons toujours plus de matériel avec les Allemands parce qu'ils ont une meilleure représentation commerciale et des méthodes que nous ne pouvons plus utiliser. Vous entendez ce que je vous dis ?
On a compris.
Et je continue parce que la démonstration, les Français doivent l'avoir. Parce que les Français ne le savent pas, ça. Et quand je dis ensuite au patron de Nexter, aux ordres du pouvoir, c'est-à-dire à l'époque de M. Hollande et M. Le Drian, quand je dis au patron, mais nous avons des accords stratégiques avec certains pays qui font que ces accords-là entraînent avec nous des solidarités, notamment en termes de livraison d'armes et de solidarité militaire. Et que si nous passons, entre guillemets, en accord avec l'Allemagne et sous tutelle de l'Allemagne, comme il le souhaitait, nous allons être obligés de remettre en cause ces accords stratégiques. La réponse, vous savez quoi ? Ça a été de me dire, mais c'est pas grave si on remet en cause nos accords stratégiques, l'essentiel c'est de pouvoir vendre du matériel avec les Allemands dans les pays où ils veulent bien les vendre, parce que de toute façon, ça nous fera vendre plus de produits. Mais où est la France ?
Où
en est la France ? Mais vous vous rendez compte de la situation ?
Philippe Meunier, on part au 0826-300-300. Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir.
Alors vous êtes plutôt de l'avis de Michel Pouzol ou plutôt de l'avis de Philippe Meunier ? C'est un bon accord ou un accord de dupes où on capitule devant l'Allemagne ?
Ah bah écoutez, 100% d'accord avec M. Meunier, c'est évidemment une capitulation. Le Rafale est un excellent appareil, c'est un avion extraordinaire. Il y a chez Dassault un gisement d'intelligence, de technologie, de savoir-faire, d'expérience, qui est exceptionnel, et logiquement, on n'a absolument aucune raison de faire cet accord et qui nous oblige à transférer de la technologie. Quant au coût, je me permets de rappeler juste qu'on trouve tout à fait normal de balancer 200-270 milliards pour le Covid, mais en revanche, on n'en aurait pas 20 pour nous donner l'indépendance en matière de défense aérienne. C'est de la folie. Et le Rafale, en plus, il ne s'est pas bien vendu en Europe. Sans doute, parce que les Américains ont fait pression pour vendre leurs produits.
Le F-35
comme le F-35, bien sûr.
Qui coûte beaucoup plus cher, d'ailleurs, que le Rafale.
Qui coûte une blinde et qui, en fait, n'est pas si surperformant par rapport au Rafale. Sans s'en faut. Hein. Il y a d'ailleurs, on trouve très bien sur Internet, des sortes de jeux de guerre qui oppose le F-35 et le Rafale, et on se rend compte qu'en fait le Rafale est plus polyvalent, plus pratique, il a des tas d'avantages. Donc moi je suis, honnêtement, et bon, il faut rappeler effectivement, et M. Meunier a bien raison de le faire, l'aventure du blindé européen, c'est une honte.
Alors, le mot de la fin, merci beaucoup Emmanuel de nous appeler de Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Philippe Meunier, le mot de la fin, l'Europe de la défense, tant qu'il y aura l'OTAN, c'est une gageure.
Oui, non, mais de toute façon, l'Allemagne est sous la protection de l'OTAN et des Américains. C'est un deal politique qu'ils ont passé et qui est toujours actif depuis 45. Ne vous faites aucune illusion. Les Allemands choisiront toujours la protection des États-Unis d'Amérique. Un vrai partenariat avec la France équilibré. C'est un fait politique. Je ne critique pas les Allemands pour ce fait-là. C'est leur droit le plus absolu. Ce que je dis simplement aux Français, c'est qu'aujourd'hui, notre industrie est partie en lambeaux sur de tas de filières. Nous avons la chance d'avoir encore une industrie de l'armement qui permet d'avoir des produits qui peuvent être vendus à l'international. Encore faut-il avoir des politiques qui ont, j'allais dire, la conviction de le faire et la volonté de le faire. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. Sauvons cette technologie nationale, gardons notre souveraineté, d'autant plus que je rappelle que le Rafale est vecteur de la bombe nucléaire, que le Rafale doit atterrir et décoller d'un porte-avions, et ça ne sera pas le cas du SCAF, parce que les Allemands n'ont ni bombe nucléaire, ni porte-avions.
Merci.
Donc l'accord qui a été passé, je vous le dis hier soir, est un accord, j'allais dire, politique. Attendons de voir les élections de septembre, attendons de voir les élections de l'année prochaine, et nous en parlons, je pense, encore pendant de longues minutes.
Et puis on suivra ça de près, parce qu'on sur Sud Radio, on aime l'industrie, on aime notre technologie française, on aime le Made in France. D'ailleurs, on a une émission consacrée au Made in France tous les dimanches avec notre amie Nathalie Schrein-Girma qu'on embrasse. Verdict sur Twitter. Merci beaucoup Philippe Meunier, vice-président LR de l'Auvergne-Rhône-Alpes et ancien secrétaire de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Verdict sur Twitter. Le premier débat, futur avion de chasse européen, les intérêts de la France sont-ils bradés ? Un score brejnevien, puisque vous êtes 95,8% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la chronique présidentielle de Philippe Rossi.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous, Michel Pouzol. Bonsoir Philippe Rossi, c'est
bonsoir.
L'heure de votre chronique présidentielle. Oui. Avec la musique qui va bien.
Votez pour moi. Je fais bien ? Non ?
Oui, oui. Mais ça va être dur de voter Chirac dans quelques mois.
Oui, c'est vrai.
Enfin, sauf si son petit-fils se présente ou sa fille. Mais ça va être compliqué sinon. La primaire de la droite, justement, parlons de la droite, a un nouveau prétendant.
Eh oui, voici un nouveau candidat à la primaire. Après Pécresse, Juvin, Barnier, Ciotti, Denis Paire a décidé de se porter candidat.
Dis-moi, ce n'est pas vrai !
Eh si, c'est vrai, Denis Paire, le nouveau candidat. Mais alors, au fait, est-ce que vous savez autour de la table qui est Denis Paire ?
Bien sûr.
Alors, qui a la réponse ? Tiens, Michel Trouzol.
Entrepreneur, bien sûr.
Bravo, Philippe Bilger. Denis Paire, entrepreneur à succès. Il a fondé en 2013 le mouvement Nous Citoyens. C'est un libéral, social, réformateur, mais conservateur sur les valeurs. C'est comme ça qu'il se définit, en tout cas. Ouais. Tiens, par exemple, pour lui, aucune aide sociale ne doit être attribuée sans contrepartie et sans rendre service à la collectivité.
C'était très bien.
Oui, c'est très bien. Alors, c'est très bien, mais ça dépend d'où on se place. Tiens, allons à gauche. Michel Pouzol, par exemple. Vous en pensez quoi de cette petite phrase et du profil de Denis Paire aussi ?
Le profil de Denis Paire, c'est un type que je trouvais plutôt sympathique quand il a lancé sa marque. C'est un très bon mec de marketing, quoi. Après, ce genre de conneries qu'il vient de sortir, on la connaît beaucoup, on l'entend régulièrement. Vous savez, c'est, on va mettre les gens dans les associations et quand vous demandez ça aux associations d'entreprise, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des gens ? J'ai pas les structures pour les recevoir. Donc c'est une de ces fausses, mauvaises bonne idée, qui vise surtout à stigmatiser les plus fragiles et les plus pauvres.
Alors ça, c'est si on se place à gauche, mais si on se place à droite, tiens, Philippe Bilger, par exemple, vous en pensez quoi de la petite phrase de Denis Paire ?
Sur le
sans
libéral,
contrepartie, ouais, les aides sociales.
Je suis totalement d'accord, vous aurez remarqué que je ne suis pas de gauche.
Oui, ça se
voit.
Je
fais bien la paire avec lui.
Bravo.
Il fallait la faire.
En tout cas, la primaire à droite, c'est pas encore acté. Les Républicains tiendront un congrès, ce sera le 25 septembre, pour donc décider s'ils lancent ou non des primaires à faire à suivre.
Quel suspense. Justement, pas officiellement candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo a déjà un soutien.
Et oui, une femme politique très connue qui est prête à soutenir la maire de Paris pour 2022. Cette femme, c'est...
Et vous dites, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens beaux veaux, ils savent que c'est qu'un veau, qui est beau,
Oui, vous l'avez reconnu, c'est Ségolène Royal, voilà.
Et c'était sur Sud Radio, dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Minibus.
Le beau de la sécurité, un beau qui est beau, tout à fait. Ségolène Royal, donc, et la maire de Paris, alors je vous le dis, qui aurait déjeuné ensemble début juillet. Anne Hidalgo aurait notamment demandé à celle qui s'était qualifiée pour le second tour de 2007 des conseils techniques, des conseils politiques sur l'organisation d'une campagne présidentielle. Principale préoccupation d'Anne Hidalgo en ce moment, vous savez laquelle ? Se défaire de son étiquette parisienne. Moi, je vous le dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Paris sera toujours Paris.
Après, 30 km/h, c'est rentré.
Mais est-ce qu'en Provence, ils connaissent bien Hidalgo ? Je ne suis pas sûr non plus.
Il faut sous-estimer personne. Parce que personne ne l'imaginait réélu. Elle l'a été brillamment.
C'est ce que j'allais vous dire.
Puis-je vous demander, Philippe, vous qui savez beaucoup de choses, est-ce que Ségolène Royal, on lui a promis la présidence du Sénat ?
Ah, ça, je sais pas.
Elle n'est pas sénatrice, déjà.
Non,
au pire.
Non, mais le moment.
Oui, je sais pas.
Ah oui, le moment. Au pire.
Ça voudrait dire que Ségolène Royal soutient un candidat ou une candidate avec une contrepartie en échange d'une présidence.
Ça
pouvait dire ça.
Non, on négocie jamais un rallyement.
Je serais très étonné par ce genre de pratique.
C'est étonnant quand même.
Par contre, Anne Hidalgo, elle se déparisianise rapidement. Il y a quelques semaines, elle était, je crois, dans Paris Match, devant des bottes de foin.
Elle a fait un tour de France.
En vélo, parfois. Oui, devant.
Le temps de la photo, je vous rassure.
Oui, c'était bucolique, même pour certaines photos. Et c'est bien connu, bucolique, ça rime avec périphérique.
Y aurait-il un peu de dérision là-dedans, l'égard d'Anne Hidalgo ?
Ça ne me ressemble pas.
Ça fait bien six mois qu'on nous fait croire que notre Premier ministre, parce qu'il a un accent qui chante, n'est pas issu de l'énarchie la plus traditionnelle de notre pays. Donc,
et alors, mon cher Michel ?
Et ça passe. Ah non, mais je vous le dis, c'est...
Serait-ce un crime ?
Non, mais pas plus pour Anne Hidalgo que de vouloir aller devant des bottes de paille.
Moi,
voilà.
Elle peut se coucher sur les bottes de foin, il n'y a aucun problème. Voilà.
Vous êtes bien sur Sud Radio. Merci beaucoup, Philippe Rossi, pour votre excellent billet sur la présidentielle. À 18h30, notre grand débat. La rentrée sociale va-t-elle être chaude ? Les syndicats appellent à manifester le 5 octobre prochain. On aura avec nous Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC, un des syndicats qui n'appelle pas à manifester. On verra pourquoi. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et réseaux sociaux. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre Assimilation, En finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire, et Michel Pouzol, ancien député et aujourd'hui porte-parole de Génération. À 18h30, notre grand débat, mobilisation du 5 octobre, la rentrée sociale va-t-elle être chaude? Ça vote beaucoup sur Twitter et vous êtes pour le moment 89,1% à dire oui. On en débattra, on aura avec nous notre ami Touvenel, j'ai un trou de sur son prénom, Joseph Touvenel, je m'excuse auprès de lui, Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC, qui viendra nous dire pourquoi notamment la CFTC n'appelle pas à aller manifester le 5 octobre. Ça va toujours les vraies voix?
Super.
Un nouveau tour de table de l'actualité, ça vous irait bien?
Tout va bien.
Eh bien, c'est parti.
Apporte-moi seulement de quoi lire.
C'est un bon livre?
Je sais même plus.
Ça m'embête un peu, ça.
Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là.
Le tour de table
de l'actualité.
Il n'a pas lu qu'un seul livre dans sa vie, on peut au moins le supposer. C'est vous, Philippe Bilger, vous vouliez parler du livre de quelqu'un qui était pas plus tard qu'hier chez notre ami André Bercoff.
Ah bon, je ne le savais pas, sinon je l'aurais écouté. non, mais Michel Onfray, je ne peux pas me passer de lui. Alors, je dirais, il y a deux Michel Onfray. Il y a celui qui pense, qui élabore, qui invente, qui a une théorie, qui a des positions tranchées. Je l'apprécie, mais ça n'est pas celui que je préfère. J'aime beaucoup celui qui pourfend, qui s'indigne, qui dénonce, qui défend, le polémiste, au fond, qui a un style éblouissant. Et il vient de publier un livre qui s'appelle « Autodafé, l'art de détruire les livres ». Vous êtes tous trop jeunes, sérieusement, mais il défend des livres, il montre à quel point certains livres ont été capitaux et fondamentaux. Il parle notamment de Solzhenitsyn, de Simon Leys pour la Chine, de Paul Yonet sur l'antiracisme, de Sam Huntington pour le choc des civilisations. Il montre à quel point ces livres qui sont aujourd'hui considérés comme fondamentaux ont été horriblement décriés lors de leur publication. Et après, il ajoute les réactions de la classe médiatico-politico-gauchiste, pour aller vite, de l'époque. Et je trouve ça extraordinaire. Deuxième élément, j'aime énormément que cet auteur, qui publie beaucoup, objectivement, qui est médiatiquement très présent, eh bien, il ne sera pas invité à France Inter quand on voit la manière dont il pourfend un certain espace médiatique. Et pour terminer, je suis trop long, j'en ai conscience, il, contrairement à certains intellectuels, alors qu'on l'accuse d'être narcissique, il va au secours, non, mais...
Michel, Michel, Philippe Michel éclate de rire. Mais vous avez fait une tête.
Michel, il va au secours précisément d'autres causes et d'autres personnalités pour leur rendre hommage. C'est quelque chose que ne pourrait pas faire un BHL, par exemple, objectivement. Et donc voilà, j'aime énormément ce livre, Autodafé. Je le recommande à tous nos auditeurs et même à Michel qui me paraît convaincu par mon argumentation.
Effectivement, si vous me demandez de faire une comparaison entre BHL et Onfray, vous mettez la barre un peu haute pour moi.
Oh, bah, allez-y,
j'avoue. Non, vous dites que vous ne pouvez pas vous passer de Michel Onfray. Je vous avoue que moi, j'ai appris à m'en passer depuis quelques années très facilement.
Ça explique beaucoup de choses.
Et que la dernière sortie médiatique où je l'ai vu faire, j'ai surtout découvert quelqu'un effectivement qui était très très narcissique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'ai découvert un tic qu'il faisait avec les personnes qui lui répondaient. Quand quelqu'un sur le plateau le mettait en contradiction, il ne répondait pas à la question, il bifurquait vers un autre sujet. C'est une tactique qu'on utilise énormément en politique, qui est vieille comme le monde, qui est intellectuellement un peu pauvrette. Et je l'ai trouvé brillant dans cette manière de détourner les réponses qui le dérangeaient et de ne pas répondre à aucune contradiction. Donc pour moi, ce n'est pas...
C'est pas ce que vous faites au vrai froid.
Ce n'est pas le statut, ce n'est pas le statut de l'intellectuel tel que je le considère dans sa pleine expression.
D'accord.
Je pense que c'est devenu un personnage ultra médiatique et qui vit de ça, qui vit très bien de ça. J'avoue qu'après, c'est plutôt quelqu'un qui surfe sur les vagues plutôt qu'il va chercher la mine au fond du charbon.
Le charbon au fond de la mine.
vous voyez, j'en arrive à faire du BHL.
C'est compliqué, Lydia Guirous. Non,
j'ai eu le plaisir de faire un plateau télé donc, sur LCI avec, à l'occasion de la sortie de mon livre « Assimilation, finir avec ce tabou français », donc avec Michel Onfray, et j'étais très surprise car effectivement, il a salué le travail que j'ai effectué sur la question de l'assimilation, et c'est extrêmement rare d'avoir un intellectuel de ce niveau qui encourage et qui salue le travail de jeunes essayistes. Ça, c'est vrai que je ne l'ai jamais rencontré, et Michel Onfray sait faire preuve de cette forme de générosité pour ceux qui arrivent derrière lui. C'est vrai qu'il écrit beaucoup. Il contribue énormément. Beaucoup au débat intellectuel, mais aussi politique. Et à un moment, on s'est demandé si, comme peut-être Zemmour, il n'avait pas envie de venir dans le champ politique, notamment lorsqu'il a lancé cette revue qui s'appelle Front Populaire et qui fait un excellent. Véritable carton et qui est de très, très, très bon niveau, avec beaucoup d'intellectuels qui y contribuent, des personnes de la société civile, des articles remarquables. Et je crois que, oui, on peut, il y a certains aspects qui peuvent être... ne plaise pas le narcissisme d'un intellectuel du niveau de Michel Onfray. Est-ce étonnant ? C'est comme le narcissisme des politiques. Je veux dire que ce sont des milieux où il y a énormément d'ego, parfois un peu de vanité, mais ça n'enlève en rien la qualité de sa réflexion et sa volonté de bousculer les lignes, de bousculer aussi pour provoquer le débat et faire naître une certaine vérité.
Mais justement,
il aime déranger parce que ça permet de réfléchir, de frotter les cervelles. Et de faire avancer surtout.
Mais justement, Michel Onfray, qui était quand même très à gauche au départ, il a beaucoup changé son fusil d'épaule. Est-ce que c'est pas un changement de paradigme dans les années 60-70, à part Raymond Aron, on disait que tous les intellectuels étaient
pas,
de gauche.
Je ne crois pas, Philippe, si vous le permettez.
Je pense qu'il est toujours de gauche.
Ça n'est pas la gauche.
C'est la gauche qui a changé.
C'est la gauche proudhonienne, lui. C'est la gauche du 19e siècle, la gauche hugolienne, si vous préférez. Et donc, il considère que la gauche n'est plus de gauche. Par rapport à cette vision hugolienne et proudhonienne. Alors, je ne connais pas, dans le fond, Proudhon, hein, objectivement, mais je trouve que...
Non, mais j'aime beaucoup sa phrase, il trouve que...
J'ai l'impression d'avoir Philippe Dabi.
Ah non, on n'a pas la même chevelure ni la même...
Ça m'a fait le plaisir que vous approuviez l'interprétation de la gauche de Michel Onfray. Il l'a toujours dit, d'ailleurs. Je ne sais pas si cette gauche, d'ailleurs, serait opératoire aujourd'hui.
Ce qui est formidable, c'est qu'il considère que la gauche n'est plus la gauche, et ça tombe bien, puisque la gauche considère maintenant qu'il est de droite. Donc
oui,
tout
mais
va
y a
bien.
Beaucoup de
nous
gens
sommes,
de
nous
gauche.
Sommes raccord, au moins là-dessus.
Il y a beaucoup de gens qui étaient de gauche, et notamment chevènementistes, et qui croient en la souveraineté, qui se retrouvent orphelins, de la gauche républicaine aussi, qui se retrouvent orphelins, qui ne se reconnaissent plus dans la gauche d'aujourd'hui.
La gauche chevènementiste n'a jamais été une des hordes de militants,
La gauche républicaine, beaucoup ne se retrouvent plus dans ce qui est devenu la gauche. Si la gauche est Europe Écologie Les Verts ou la France Insoumise, vous avez beaucoup de gens qui sont pourtant de gauche, qui ne s'y reconnaissent pas et qui préféreront voter ailleurs parce qu'ils sont totalement orphelins. Oui,
effectivement, il y avait une certaine gauche qui était toujours prête à passer l'arme à droite, donc elle l'a fait notamment avec Macron, on l'a vu. Effectivement, cette gauche-là se sent un peu orpheline. Mais écoutez,
celle qui est attachée à la laïcité aussi se sent orpheline.
Ouais, je suis désolé, moi je suis attaché à la laïcité, mais je suis pleinement de gauche.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h15, les vraies voix, à 18h30, notre grand débat, mobilisation du 5 octobre. La rentrée sociale va-t-elle être chaude ? Vous êtes 89,5% à dire oui sur Twitter. Vous pouvez bien évidemment voter, appeler le 0826-300-300 pour réagir. Tout de suite, on va voyager. Direction Mayotte, oui, puisque Gérald Darmanin a annoncé hier qu'il voulait renforcer le droit du sol pour les personnes, les enfants nés à Mayotte de clandestins comoriens. On partira donc retrouver un Français qui vit là-bas. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre Assimilation, en finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire, et Michel Pouzol, ancien député et porte-parole de Génération. Direction Mayotte, où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier sa volonté de limiter l'attribution de la nationalité française pour les enfants nés sur l'île. Il était en visite sur cette île de l'océan Indien avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Alors depuis 2010, 2018. La loi Asile et Immigration, il existe une exception pour le droit du sol à Mayotte. C'est le 101e département français qui a une immigration clandestine massive en provenance des Comores. Un enfant né sur le territoire peut devenir français à la condition qu'au moins un de ses deux parents ait été en situation régulière et ininterrompue sur le territoire depuis 3 mois avant la naissance. La loi, Gérald Darmanin veut passer ce délai à 1 an. Nous sommes en compagnie de Pierre, agent de la fonction publique, travaillant et vivant à Mayotte. Pierre, bonsoir.
Bonsoir Philippe David.
Il est 19h20 là-bas. Alors, quelle est la situation à Mayotte? On a beaucoup entendu le président de la République parler des Kwassa, c'est les bateaux qui amènent les clandestins comoriens vers Mayotte. Quelle est la situation là-bas?
Eh bien, écoutez, ici, le temps passe et rien ne change vraiment. Hein. Visite ministérielle après visite ministérielle, beaucoup d'annonces et à l'arrivée, peu de choses et de réalisations concrètes. Malheureusement, ces derniers jours, nous avons eu Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu qui ont passé quelques jours donc sur le territoire mahorais. Ceux-ci ont fait de belles et de grandes promesses, mais malheureusement, quand on décrypte un peu leurs propos, quand on les déchiffre, on se rend compte que ce sont, comme d'habitude, beaucoup de poudre aux yeux, beaucoup de belles promesses, et à l'arrivée, on attend et on attend encore. Un seul exemple, ces derniers jours, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu sont allés visiter, entre guillemets, les très nombreux bidonvilles de petites terres et de grandes terres ici à Mayotte, ce qu'ils appellent publiquement et avec un certain politiquement correct l'habitat insalubre et illégal. Donc dans ces bidonvilles, vous n'avez ni eau ni électricité, ou s'entassent dans des cages en tôle faites de briques et de brocs énormément de personnes. Eh bien, il a été rappelé qu'en 2017, Emmanuel Macron, lorsqu'il était venu à Mayotte, avait promis de débloquer plusieurs millions d'euros pour permettre donc à ces bidonvilles d'être alimentés en eau. Nous sommes en 2021 et Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin ont donc promis que prochainement, cette enveloppe de plusieurs milliers d'euros serait débloquée. Donc ici, la population n'y croit plus trop, bien malheureusement.
Mais il y a des vagues d'immigrés. Comment ça se manifeste? C'est des bateaux, des Kwassa, comme on dit, qui arrivent perpétuellement. Comment se passe l'immigration clandestine là-bas? Parce que je crois que Mayotte, Mamoudzou, est la première ou la deuxième maternité de France avec Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Mais là, c'est l'immigration clandestine qui arrive du Suriname, l'ex-Guyane néerlandaise.
Alors ici, oui, comme vous le soulignez, la maternité du centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou est de loin la première de France, d'homme d'homme inclus, tout simplement parce qu'ici, eh bien, en moyenne, les femmes ont à quelque chose près, comme 5 enfants. Ce sont majoritairement des Comoriennes, des personnes venant d'Afrique australe, qui donc donnent la vie au CHM. On estime à quelque chose près, en moyenne, à 30-35 naissances par jour, soit à peu près une classe d'école par jour qui naît ici. Vous parliez également des Kwassa et de l'immigration illégale qui ici est très importante et très forte. Les derniers chiffres de l'INSEE à ce sujet, un chiffre officiel de 2017, parlait de quasiment 50% d'immigrés clandestins sur l'île, 48% exactement. Alors d'aujourd'hui, en 2021, on peut supposer que ce chiffre a été dépassé. Et comme ici, la population déjà locale et française, les Mahorais, vit officiellement à 77% sous le seuil de pauvreté nationale, eh bien vous imaginez, en plus, avec une immigration clandestine forte, s'entassant dans des bidonvilles, comme je vous disais, sans eau ni électricité, eh bien c'est une véritable poudrière ici à Mayotte. Pourquoi? Parce que eh bien, ces bateaux qui traversent le bras de mer entre les 3 autres îles de l'archipel des Comores, notamment en Juan, qui se situe à peu près à 70 km à vol d'oiseau de Grande Terre, eh bien, sont surtout des arrivées par des nuits de grande lune, ou dans la baie de Bouéni, par exemple, dans l'ouest de Grande Terre, ou encore à Petite Terre, au nord-est ici de Mayotte, arrivent eh bien, des vagues régulières et très nombreuses d'immigrés clandestins. Dans la fois la pauvreté. Oui, pardon.
Philippe, vous me pardonnez de n'être pas trop familier avec les problèmes et les préoccupants de Mayotte, mais si je comprends bien, le problème central, c'est l'immigration qui vient des Comores. C'est correctement dit?
Oui, le problème ici majeur est malheureusement cette immigration, ces personnes qui fuient la misère, qui fuient la violence. Il faut quand même rappeler un fait qui passe totalement inaperçu au niveau géopolitique et dans les médias français, c'est que depuis quelques mois, à peu près 300 km à vol d'oiseau de l'archipel des Comores et de Mayotte, au Mozambique, à Cabo Delgado, où vous avez un groupe de djihadistes El-Shabaab qui a pris eh bien, la ville la plus importante de cette province, et vous avez également la plateforme gazière de Total, où Total a retiré à la fois ses billes, ses techniciens et ses employés. Donc si vous voulez, on est dans un canal du Mozambique où il y a quand même énormément de pauvreté. L'Union des Comores et Madagascar, tout comme le Mozambique, font partie des pays les plus pauvres au monde. Et ici, eh bien, Mayotte semble, pour ses populations, un Eldorado. C'est malheureusement un faux Eldorado, c'est malheureusement un mirage, puisque lorsque ceux-ci arrivent, eh bien, ils s'entassent dans des bidonvilles. Et bien malheureusement, à part la prostitution pour les femmes, et très souvent à part le vol, la délinquance et le crime pour les hommes, il ne reste guère de solutions pour essayer de survivre.
Une réaction rapide de Lydia Guirous et de Michel Pouzol.
Oui, ça fait des années que cette situation dure, avec notamment une montée en puissance de la délinquance, de la violence. C'est vraiment extrêmement tendu, hein, parce que vous avez les populations locales, comme le disait monsieur, qui vivent déjà dans des conditions extrêmement difficiles. Vous rajoutez à cela des personnes qui arrivent en situation irrégulière, donc c'est de la misère qu'on rajoute à la misère. L'état de la maternité, qui est la première maternité de France, puisque vous avez des femmes qui sont quasiment sur le point d'accoucher, qui arrivent sur les plages, parce qu'il y a le droit du sol en fait au bout, et qu'elles pensent qu'elles vont sauver la vie de leur enfant, et c'est vraiment une situation extrêmement difficile, et il y a peu de on a l'impression qu'on n'arrivera pas à résoudre ce problème-là, d'autant plus que ce sont des populations qui arrivent avec une pratique de l'islam qui est quand même rigoriste. Et là, Gérald Darmanin a promis plus de bateaux pour essayer d'arrêter ces petits navires.
Oui. Là, oui, les quoi ça.
Et puis surtout de prolonger de 3 mois à 1 an l'obligation voilà, pour pouvoir accéder au droit du sol. Je ne suis pas certaine qu'on réussira avec ça à résoudre le problème de Mayotte, malheureusement.
Michel Pouzol.
Oui, moi je regardais un peu les chiffres sur Mayotte. Il faut rappeler, il y a 77% des habitants de Mayotte vivent sous le seul mondial de pauvreté. 49% de la population est immigrée, dont la moitié à peu près est clandestine. Il y a la moitié qui est là de manière régulière. 95% viennent des Comores, effectivement. Donc on voit bien que c'est un problème local. Le chômage est à 28%. Un tiers de la population vit dans un logement qui n'est pas raccordé à l'eau courante. On voit qu'on a quelque chose de qui tient de la grande misère et de cette région du monde, hein, qui concerne les Comores, qui concerne le drame incroyable qui se passe à Madagascar dans un silence absolu, avec la plus grande famine et peut-être la dernière famine sur cette île, qui est en train de mourir dans l'indifférence totalement générale. Et je pense qu'effectivement la question de Mayotte, c'est pas simplement le droit du sol, parce que tant que des femmes penseront qu'elles vont mourir aux Comores en donnant naissance à leur enfant, elles viendront les accoucher, voilà, elles essaieront en tout cas. C'est une tragédie dans ce coin du monde qui se passe dans le silence absolu, et je pense qu'il faudrait que, c'est un de nos départements, la France s'honorerait à mettre des moyens exceptionnels sur ce sujet-là.
Merci beaucoup, Pierre, agent de la fonction publique, travaillant et vivant à Mayotte, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe dans ce territoire de l'océan Indien, ce territoire français de l'océan Indien. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, notre débat. La rentrée sociale va-t-elle être chaude avec l'appel d'une partie des syndicats à manifester le 5 octobre prochain ? Eh bien, vous êtes pile 90% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Michel Pouzol. Et on va parler du mouvement du 5 octobre prochain.
Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.
Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un vent de révolte ?
Pas content !
Nous, à la CGT, nous estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas
le satisfaction.
Je sens que je vais craquer.
Et moi, je sens que je vais devenir fou.
Solidarité avec la CGT !
Sud Radio, les vraies voix.
Le débat est ouvert.
La nouvelle est tombée hier soir. Une journée d'action commune de l'intersyndicale CGTF au Solidaire FSU aura lieu le 5 octobre prochain. Une journée d'action décidée hier suite à une réunion au siège de la CGT. Une réunion à laquelle n'ont participé ni la CFDT ni la CFTC, mais à laquelle participait la CGC qui, elle, n'appelle pas à la grève ce jour-là. Mobilisation du 5 octobre, la rentrée sociale va-t-elle être chaude ? Avec nous en studio, Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. Bonsoir.
Bonsoir.
La CFTC ne participera pas au mouvement social du 5 octobre. Votre syndicat n'est pas prêt pour une dure lutte ?
La dure lutte, pour nous, c'est dans l'entreprise plus que dans la rue. Et puis chacun a ses habitudes. Nous, on est plutôt à bosser en entreprise. Il y a ceux qui, à la rentrée, sortent. Il fait encore beau. D'ailleurs, on a eu un été catastrophique, donc il y aura peut-être du soleil. En tout cas, je leur souhaite. Chacun son mode d'action. Quant à voir quel est le plus efficace, peut-être que les deux sont efficaces. Peut-être qu'il faut être à la fois dans la rue, mais à la fois travailler dans les entreprises, dans les branches professionnelles et avec le gouvernement, quel qu'il soit, si le gouvernement est prêt à travailler.
Michel Pouzol, c'est vous qui êtes le plus syndicaliste des vraies voix aujourd'hui.
Oui, alors pour parler de la rentrée, je vais commencer par parodier, les amateurs de Kaamelott comprendront. Il faut le dire, on en a gros. Non, je pense que oui, effectivement, la rentrée risque d'être chaude parce que, outre la déflagration sociale qui va suivre forcément la crise de la pandémie que nous avons traversée, et puis le fait, on l'a déjà évoqué ici, moi je le redis, que dans certaines branches de l'industrie où on a besoin d'améliorer les marges de manœuvre financières et non pas où on ne sera pas en crise, on va profiter de l'excuse Covid pour dégraisser un petit peu les effectifs. Ça a déjà commencé dans certains endroits. La réforme des retraites qui est toujours plus ou moins là, flottante dans l'esprit de notre président, la réforme de l'assurance chômage, qui est une catastrophe et un véritable scandale dans cette période où on aurait besoin, au contraire, de plus de solidarité. Oui, il y a des sujets de mécontentement. Oui, je pense que les Français sont à bout. À cela se mélangent d'autres luttes un peu disparates. Oui, effectivement, je pense que la rentrée peut être très chaude, mais il y a aussi de bonnes raisons qu'elle le soit, parce que pour l'instant, on a oublié ça, mais la politique globale de ce gouvernement, elle est antisociale depuis 5 ans, et elle a fait de gros dégâts dans les entreprises pour le pouvoir d'achat des gens et le quotidien. Voilà.
Alors, Michel Pujol vient d'être très positif, il a parlé de notre industrie, comme quoi il est encore en resté. Il a rassuré un certain nombre d'auditeurs, parce que vu les pratiques qu'on a depuis quelques années, on se demande comment on arrive à survivre dans l'industrie, qui est sans doute une des raisons principales des taux de chômage. Les réformes, oui, vous avez raison, il y a des réformes qui ne font pas plaisir. Le chômage, on voit très bien la réforme, le mode de calcul. L'UNEDIC nous dit que si ça rentre en place, c'est 37% de ceux qui sont au chômage qui toucheront moins 24%. 37% des personnes actuellement au chômage toucheraient moins 24%. C'est ça, simplement inacceptable.
Sachant, si je vous permets, qu'aujourd'hui, un chômeur sur deux ne touche aucune indemnité. Donc déjà, c'est ça qu'on devrait pointer du doigt.
Mais après, il y a les retraites. Alors là, les retraites, c'est le serpent de mer. Hein. Ce n'est pas ce gouvernement. Les retraites, si je me retire en arrière, je vois qu'on était en 1971, en tout cas pour le secteur privé, celui que je connais le mieux. Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans et demi. Je connais un peu. On était sur un calcul sur les 10 meilleures années et 37 années et demie de travail pour partir à plein pot. Qu'on ne dise pas qu'il y a peu de retraite, aujourd'hui c'est les 25 meilleures années, entre 10 et 25, il y a un sacré différentiel, et on peut maintenant aller jusqu'à 172 trimestres. Donc la réforme des retraites, elle est permanente. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est indispensable et nécessaire ? Surtout, comment faire passer ça à des travailleurs français qui s'inquiètent à juste titre, mais à qui on a expliqué pendant des mois, mais les petits gars, l'endettement, c'est pas un souci. L'argent peut couler à flot quand on en a envie. Venez expliquer à celui qui turbine depuis des années, qui touche le salaire minimum, qui est pas grandiose quand même, hein, 1200 et quelques euros net par mois, donc qui a travaillé durement, parce que c'est des métiers durs. On va lui expliquer qu'on va encore réformer, lui demander d'aller travailler plus longtemps et que les jeunes seront toujours sans emploi.
Philippe Bilger, dans le micro.
Joseph Touvenel, j'ai beaucoup apprécié la méthode de votre syndicat, le fait que vous considériez qu'on peut manifester de manière plus paisible, plus consensuel, si vous me permettez le terme, et on n'est pas obligé d'aller dans la rue. Mais est-ce que cette volonté que vous avez démontre que vous approuvez au moins partiellement ce qui a été fait ces dernières années, ou êtes-vous vent debout contre tout ce qui a été fait ?
Ça serait trop long, il faudrait prendre point par point. Moi, je ne vais pas faire globalement, tout est moche, globalement, tout est bien. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a ce qui se passe au niveau de l'État, mais il y a ce qui se passe dans les entreprises et dans les branches professionnelles, et ce n'est jamais neutre. Mais globalement, sur les retraites, sans doute qu'il faut faire des efforts, ou qu'il fallait en faire. En tout cas, pour le privé, on a donné. On a donné. C'est bon. Et puis, quand on nous parle du déficit des retraites, on nous parle toujours d'un déficit, et on oublie de nous dire qu'il faut mesurer aussi les gains. Parce qu'un retraité qui touche une pension, c'est de la consommation, c'est pas de la perte, c'est pas un trou qu'on creuse. Et ça, on nous en parle jamais. Moi, j'aimerais voir des études un peu cohérentes là-dessus. Et puis, si ça doit coûter un peu d'argent, comme le gouvernement nous dit qu'il est très fort, qu'il va faire repartir le pays, et donc le taux de chômage va baisser, et donc il va y avoir beaucoup plus de cotisants, on n'aura pas de problème pour les retraites.
Lydia Guirouz.
Oui, c'est vrai qu'il y a une incohérence dans le discours du gouvernement à dire « quoi qu'il en coûte » et en même temps à demander cette réforme des retraites, parce qu'avec le « quoi qu'il en coûte », on a l'impression que l'argent est magique, on a l'impression que personne ne va payer, que personne ne va rembourser. Bon, je pense que c'est ma génération et celles qui viennent qui vont devoir supporter ça, parce qu'il n'y a jamais d'argent gratuit. Et en même temps, on a cette réforme des retraites, donc qui va être encore un effort qu'on va demander, et notamment aux plus jeunes. Donc là, il y a une incohérence. Et pour revenir sur la rentrée sociale, je pense qu'en effet, ça va être assez chaud. Vous aviez, Michel Pujol parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat des Français. Vous avez les prix des produits, et même des produits de première nécessité qui sont en train de grimper. Le prix du gaz qui augmente très fortement, le prix de l'électricité qui augmente très fortement, et ça va quand même avoir un impact très négatif sur le pouvoir d'achat des Français. Et en parallèle, et c'était à l'origine de la crise des Gilets jaunes, c'est l'augmentation du carburant. Quand vous passez faire votre plein, vous sentez quand même la différence. Et ça, il ne faudrait pas que ce soit ce qui déclenche une étincelle sociale
comme
extrêmement forte, comme les Gilets jaunes, avec cette colère sur le pass sanitaire. Je ne sais pas si ça va s'atténuer ou pas. J'espère que ça ne dérivera pas vers de l'ultra-violence, comme on l'a pu le connaître avec certains épisodes des Gilets jaunes qui ont complètement discrédité le mouvement, et toute violence discrédite tout mouvement, même s'il est légitime initialement. Donc c'est vrai qu'on a, on peut craindre une rentrée sur le plan social qui va être assez mouvementé. Et votre mouvement a décidé d'être plutôt dans la négociation, les discussions en interne. D'autres ont choisi d'aller dans la rue. N'est-ce pas complémentaire ?
Si, c'est ce que je disais au départ. Ouais. Il y a une forme de complémentarité, mais c'est une culture. Notre culture syndicale, nous, on est dans le privé, essentiellement. Et dans le privé, on connaît son entreprise. Le privé, c'est essentiellement des PME. Très grosse structure aussi, mais on connaît, on sait pourquoi on travaille. Et généralement, le lien est plus étroit et plus humain avec les directions que dans les services publics. Et donc, quand je sais pourquoi je bosse, quand je vois les résultats de l'entreprise directement, ben, j'ai pas tendance à me mettre en grève. Et puis surtout, la grève, ça coûte cher aussi. Et donc, souvent, ceux qui sont dans la rue, et je vais pas leur reprocher, ce sont les masses des permanents syndicaux qui viennent en grande partie de l'administration ou du système parapublic. Mais vous avez raison, Lydia Guirouz, on a un problème de salaire et de pouvoir d'achat. Les salaires sont trop faibles en France. Et quand on nous dit la valeur travail, bien la valeur travail, elle a un prix. Et quand j'entendais tout à l'heure en venant un responsable d'une grande chaîne hôtelière qui se plaignait de ne pas pouvoir embaucher, on a un problème, effectivement. Il nous dit « je ne trouve pas ». Oui, mais les conditions de travail et les salaires des gens qui sont dans les grandes chaînes hôtelières, mais enfin, c'est lamentable. Il faut voir. Ils vont travailler la journée, ils vont travailler le week-end, ils vont travailler les jours de fête. Il faut le faire.
La nuit.
Mais ça mérite une rémunération qui leur permette de vivre dignement, eux et leur famille.
Direction le 0800 26 300 300, direction Vannes, direction la Bretagne. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Est-ce que pour vous la rentrée va être chaude ?
Ben écoutez, je vous écoute depuis tout à l'heure. J'aurais juste voulu rebondir deux petites secondes sur ce que vous venez de parler par rapport au cas, parce que du coup, je me sens concerné, étant donné que j'ai 40 ans, et bon, je suis encore un peu loin. Hein.
Oui.
Deux choses, il y a une étude qui est sortie, qui est très très simple. Hein. Bon, on ne touche pas aux riches, hein, ça on a compris. Même les ultra-riches, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, juste sur une année, le supplément de ce qu'ils ont gagné, le bénéfice supplémentaire, on parle même pas de ce qu'ils gagnaient déjà avant, c'est pas un problème, j'ai aucun problème avec les gens qui gagnent beaucoup d'argent, juste ce qu'ils ont gagné en plus cette année réglerait le problème pendant 20 ans des retraites en France. Bon, admettons, c'est pas très grave, on touche pas leur argent. Et je voulais revenir sur un dernier petit point, il y a quelqu'un qui s'appelle Florian Philippot qui défend la sortie de l'Union européenne. Alors moi je me suis penché un peu dessus, j'y connaissais trop rien, et en fin de compte je me suis rendu compte qu'on était débiteur de 8 milliards d'euros, c'est à peu près ce qui nous manque pour pouvoir régler le problème des réformes des retraites. Bon voilà, bon, on a compris qu'il valait mieux qu'on se trouve de l'autre côté chez les Anglais, hein. Ça règle beaucoup plus facilement que quand on est dans l'Union européenne pour les retraites. J'ai fait ma petite aparté là-dessus, hein, enfin juste pas la peine par la suite de nous dire oui mais les Anglais, hein, on se souvient tous que les journalistes, les éditorialistes nous avaient promis la catastrophe économique au lendemain, pas 10 ans, pas 20 ans plus tard, au lendemain de la sortie de l'Union européenne. En fin de compte, on a vu qu'il venait d'augmenter de 8,8%
les salaires,
le SMIC. Hein. Mmh. Et donc, en fin de compte, les gens qui nous ont fait la leçon de morale, qui ont tenté de faire tour aux Français, j'aimerais bien les entendre cette fois-ci.
Alors justement, on va faire réagir Joseph Touvenel. Joseph Touvenel, est-ce une légende urbaine, vous avez écouté Benoît, que l'Union européenne, justement, moyennant les aides pour le plan de relance européen, a exigé que la France fasse une réforme des retraites le plus rapidement possible?
Alors, l'Union européenne, quand on nous a dit d'ailleurs que l'argent allait couler à flot, on nous a fait des promesses alors que les accords européens n'étaient pas là. Mais l'Union européenne met un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'on nous dit « allons-y pour l'argent », mais il y a des conditions. Et comme nos amis allemands ne sont pas neutres dans l'Union européenne et qu'ils ont toute la gentillesse vis-à-vis de l'économie française, ils vont exiger, et ils exigent un certain nombre de choses, et il est vrai que ce n'est pas dans les textes, mais c'est dans l'esprit qu'on nous dit, du côté de l'Union européenne, alors moi je suis un Européen convaincu parce que je suis Français, donc je suis Européen, je ne suis pas un Bruxellois, je fais la différence entre les deux. Je crois en l'Europe, je travaille beaucoup avec les organisations sociales chrétiennes européennes, mais ce n'est pas Bruxelles, il ne faut pas confondre les deux, et c'est vrai qu'il y a une idéologie qu'on retrouve en Europe, mais qu'on retrouve aussi ailleurs, qu'on trouve à l'OMC, qui est toujours de dire... plus de sacrifices pour le bon peuple, sur les retraites, faites des efforts. Et encore une fois, je reviens dessus, c'est pas illégitime de se poser la question, mais pour les salariés du privé, on a donné, ça y est, c'est bon, on est arrivé au bout.
Mais alors justement, Joseph Touvenel, avant de redonner la parole aux vraies voix, ce que disait Benoît de Vannes, qu'on remercie, ça m'a fait tilter quelque chose. Il va falloir payer la dette Covid. On en parlait ce matin, d'ailleurs, dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. La facture est salée. Elle se compte en centaines de milliards. On est d'accord avec le quoi qu'il en coûte. Donc, il y a un mouvement social. Il va falloir augmenter les impôts. Mais lesquels ?
Alors, moi, je ne suis pas économiste. Je vois la polémique. Je ne crois pas à l'argent magique. Je ne crois pas à l'argent gratuit. Je ne sais pas quelles sont les solutions qui ont été élaborées à Bruxelles. Parce que tout ça est assez...
opaque.
C'est opaque. C'est aussi opaque que les accords entre les fabricants de vaccins et l'Union européenne. C'est-à-dire que le bon peuple, on n'a pas accès aux informations qui nous permettraient de porter un jugement en toute connaissance.
Michel Pouzol.
Oui, on parle de tout à l'heure, il n'y a pas d'argent magique, certainement pas, mais je vous demande de chercher dans l'histoire récente le moment où l'Allemagne a remboursé sa dette pour la réunification allemande. Si vous trouvez le moment où elle l'a fait... Je suis preneur. Donc, il n'y a pas d'argent magique, effectivement, mais les dettes d'État ne sont pas les dettes des particuliers. Il ne faut pas tout confondre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça ne se passe pas tout à fait comme ça sur les marchés internationaux. Les États se rachetant les dettes les uns aux autres pour des raisons éminemment plus économiques, stratégiques et mondiales. Donc ça, déjà, ce n'est pas tout à fait comme si on remboursait un crédit à sa banque. C'est ce que je pense que les gens ont voulu essayer d'expliquer.
Mais pour avoir dette française, si demain dette française est détenue par la Chine...
la dette française est déjà détenue par d'autres pays et nous détenons la dette d'autres pays. Ouais, c'est un jeu des marchés financiers.
Ça pose un problème.
Faire la caricature de ce système économique est un mode d'asservissement des populations. Et tant qu'on n'aura pas, été avancé sur ce sujet-là, on n'avancera pas vers les solutions intelligentes. Pour le reste, Joe Biden, qui est un dangereux gauchiste, est bien connu, face à McDonald's et Amazon qui pleurent parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de main-d'œuvre, il a trouvé la solution. Il a dit « pay them more ». Payez les mieux. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait un calcul l'autre jour, j'ai fait 45 boulots différents dans ma vie. Donc des entreprises, j'en ai connu de toutes les tailles. J'ai travaillé dans la grande distribution dans toutes les enseignes. La grande distribution, c'était des contrats d'une demi-journée, de 3 heures, de jour, la nuit, le samedi. J'ai jamais négocié un salaire. Quand vous arrivez devant un patron, il vous disait, voilà, les horaires, c'est ça. tel jour, ils ne vous demandaient pas si vous étiez d'accord ou pas. Et le salaire, vous le connaissiez quand vous arriviez avec vos bulletins de paye. Il y a une réalité qui est celle-ci aussi du marché du travail dans ce pays-là. Eh bien, effectivement, la valeur travail, ça a un coût. Mais la valeur travail, c'est celle de ceux qui travaillent tous les jours. Parce que nous, on n'a jamais rien eu dans la vie sans aller bosser, en échange de notre force de travail. Donc, effectivement, il y a des raisons concrètes de mécontentement dans ce pays. Et effectivement, c'est explosif. Et je le redis, ce gouvernement n'a aucune idée de ce que vivent au quotidien une majorité de Françaises et de Français. Mais quand on oublie ça, on oublie ce qu'est le pacte républicain et la promesse républicaine de faire des études, d'être soigné, d'avoir une vie meilleure que ses parents et un salaire qui permette de vivre. Ce n'est plus le cas et on n'a pas abordé le problème des auto-entrepreneurs, de ces jeunes qui ont des boulots,
précaires,
de
tout, etc.
Mais
sur les précaires, ils sont, voilà, libéralisation qui est terrifiante.
Voilà. Mais Michel, d'abord, pour rire, on a moins tendance à écouter Joe Biden depuis quelque temps parce que, bon, il est...
Tout il même, s'endort un peu.
Il est catastrophique.
Vous ne l'avez jamais aimé, Philippe.
Ah, mais... Par rapport à Trump, il avait une petite réussite relative. Bon, maintenant, il l'a perdue. Mais deuxième élément, là, je suis beaucoup plus sérieux, enfin, j'espère. Je ne crois pas que le gouvernement, le pouvoir, néglige, oublie, ne connaisse pas les misères, les difficultés. Est-ce que vous croyez que... C'est une question, hein. Est-ce qu'il est facile, en ayant un constat lucide sur la situation de la France, d'y remédier ?
Le mot de la fin, Joseph Chouvenel.
Je crois que malheureusement, nos élites, ce gouvernement, les précédents, nos élites se reproduisent entre elles, et ça c'est naturel, mais sont complètement à côté de leur pompe par rapport à la vraie vie. Globalement, d'où les gilets jaunes, c'était ça. Et puis, dernier point, on effleure les problèmes, mais je ne vois pas un gouvernement qui s'attaque au fond du problème. Le fond du problème, en mon sens, c'est dans la mondialisation, une concurrence déloyale, pour le même jeu, une concurrence déloyale en matière sociale, environnementale et fiscale. C'est le cœur du problème. Je ne peux pas jouer à égalité avec la Chine. Fiscalité, c'est le gouvernement chinois qui fait ce qui nous est interdit, qui subventionne des entreprises pour prendre des parts de marché.
Qui a une monnaie sous-évaluée, le yuan ?
Avec une monnaie sous-évaluée,
de
30%
à peu près.
Qui sous-paye ses salariés quand elle les paye, et qui environnementalement dégueulasse la planète, mais ça tout le monde s'en moque parce que c'est une brave dictature communiste.
Les vraies voix, le grand débat, manifeste, mobilisation du 5 octobre, la rentrée sociale va-t-elle être chaude ? Vous êtes 89,8% à dire oui sur Twitter. On remercie Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Eh bien c'est un plaisir de venir.
Eh bien si un de ces jours vous voulez venir comme chroniqueur dans Les vraies voix, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous Joseph Touvenel. De suite, on va retrouver l'actu en région avec Philippe Rossi. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous, Michel Pouzol. C'est une première à Lyon, une manifestation citoyenne pour soutenir la vaccination contre le Covid, Philippe Rossi.
Et oui, c'est une première à Lyon et en France, j'ai envie de dire. Hier, 150 personnes se sont retrouvées sous l'horloge de la place Antonin-Poncet. C'est à deux pas de la place Bellecour, voilà, pour ceux qui connaissent Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous fais un petit descriptif. Voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. Être vacciné égale liberté, ou encore je suis pro-vaccin et je m'en porte bien. Et à l'origine de ce rassemblement, eh bien, c'est un ancien journaliste, mais oui, il s'appelle Jacques Boucaud. Il en avait marre, Jacques Boucaud, de voir défiler chaque samedi des antivax. Jacques Boucaud, que je vous présente puisqu'il est avec nous. Bonsoir, monsieur Boucaud.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Alors, ne vous en faites pas, tout le monde est vacciné autour de cette table. Hein. Jacques Boucaud, pourquoi avoir organisé ce rassemblement ? Marre des antivax, Jacques Boucaud ?
Oui, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Ouais. C'est que depuis le début du mois de juillet, on assiste par médias interposés à ces manifestations dans la rue. Bon, la liberté de manifester existe heureusement, mais surtout ce qui me dérange, c'est les propos qui sont tenus par ces manifestants, des propos quand même qui sont infâmes, je dirais. Souvenez-vous, un samedi, on a vu des étoiles jaunes, ouais. Des journalistes qui se sont traités de collabos.
Et puis le mot dictature aussi, le mot dictature qui revient souvent.
Ça
vous excède.
Ah oui, non mais attendez, dictature, j'ai envie de dire à ces manifestants, parler de dictature ici, si les Afghans qui se trouvent encore à l'aéroport de Kaboul entendent ça, comprendrait sans doute pas bien, parce qu'effectivement, parler de dictature aujourd'hui, ce sont des mots qui ont un sens, que ce soit le terme de dictature, le terme de fascisme qui est aussi employé, l'utilisation des symboles comme celui de l'étoile jaune dont je parlais à l'instant, ouais. Sont, pour nous, en France, ce sont des symboles ou des mots qui ont un sens, et on ne peut pas détourner, galvauder le sens de ces mots-là.
Alors, Philippe Bilger, vous avez une question à Jacques Boucaud.
Oui, Jacques Boucaud, vous qui voyez cela et qui avez intelligemment opposé une autre manifestation, quelle est, à votre avis, la tonalité essentielle de ces gens ? J'élimine les opposants de bonne foi, hein, mais ceux-là qui ont des slogans ignobles, c'est quoi ? C'est un anti-macronisme ? C'est autre chose ?
Ben c'est certain, il y a un anti-macronisme, c'est certain, je pense qu'il y a des participants, on le voit bien, il y a des mouvements d'extrême droite qui sont présents dans ces manifestations, des mouvements d'extrême gauche, ils en font quelque chose qui est politique. C'est une espèce de boogie-boulga de différents opposants à plein de choses, ils sont anti, mais anti, on ne sait pas trop quoi, anti-tout. Et bon, on voit bien, un type comme Philippot, il est en train de préparer la campagne présidentielle de 2014.
Ouais, sur ce thème-là, hein. Ouais. Le pass sanitaire, les anti-vax,
Mais Lydia. N'est-ce pas un petit peu caricatural que de dire que ce sont des gens qui sont anti-tout moi, je pense que parmi les personnes qui manifestent contre le pass sanitaire, il y a aussi des personnes qui sont favorables à la vaccination. Comme dans votre manifestation, peut-être y a-t-il des personnes qui sont contre le pass sanitaire, alors qu'ils sont favorables à la vaccination. Je crois qu'il ne faut pas non plus caricaturer l'ensemble des personnes qui ont manifesté. Il y a une minorité parmi elles qui sont, certes, on a pu voir les panneaux antisémites qu'il faut très fortement condamner. Il y en a certains qui sont prêts à des centres de vaccination. C'est des actes qui sont innommables, stupides et qui doivent être condamnés. Mais il ne faut pas non plus caricaturer l'ensemble des personnes qui se sont déplacées depuis plusieurs samedis au cœur de l'été.
Jacques Boucaud, une réponse assez courte, Jacques Boucaud.
Oui, effectivement, on voit des gens très différents dans ces manifestations, mais enfin, c'est une minorité, et c'est une minorité qui fait du bruit, on entend que c'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai lancé ce mouvement ici à Lyon, c'est-à-dire que nous, on veut aussi montrer qu'on existe, que la France n'est pas ce
Oui. Et donc la manifestation pro-vaccin que vous avez organisée, c'était hier à Lyon, et il y aura d'ailleurs certainement des petits, puisqu'il y a plusieurs villes qui se sont adressées à vous pour organiser aussi des manifs pro-vaccin. Merci à vous Jacques Boucaud, merci d'avoir été avec nous.
Tout de suite, on retrouve l'after, on va dire ça comme ça, des vraies voix. On a la VV du jour qui sera Corinne de Chamonix. Elle va débattre avec vous, mon cher Philippe Rossi, avec Michel Pouzol et votre serviteur. Merci Philippe Bilger, merci Lydia Guirous.
Merci à
vous.
On
se retrouve tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Et la vraie voix du jour, avec nous Corinne de Chamonix. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Philippe, bonsoir les vraies voix. Je vous souhaite une très belle saison avec plein d'auditeurs éclairés. Alors j'ai écouté votre émission, les cheveux des fois me dressent, mais c'est bien, ça me fait réfléchir et c'est super.
Vous avez de la chance, moi vu ma chevelure, ça ne m'arrive plus.
Bon, moi j'en ai encore un peu, donc ça va.
Alors, vous voulez parler justement, alors, et restez avec nous également Lydia Guirous, il y a bien bonsoir, évidemment Corinne. Aussi, je l'avais prévu, Michel Pouzol, Philippe Rossi et votre serviteur, vous voulez parler déjà de la rentrée politique pour la présidentielle et pour vous, ma chère Corinne, c'est du jamais vu.
Je voulais parler aussi de Marseille. Alors, je sais
comme vous voulez, vous voulez commencer dans l'ordre que vous voulez.
Je voulais dire à Madame Lydia Guirous, qui est de droite, mais moi je suis de gauche, elle est très fine dans ses analyses, parce que sur le pass sanitaire, je suis d'accord avec elle. Sur la repentance, je suis d'accord avec elle, sur plein de choses. Maintenant, on va voir pour la rentrée politique.
Merci donc, Corinne, nous allons voir.
Mais j'aime bien Monsieur Bilger, hein, il n'est pas là, d'habitude je le taquine, mais bon, il n'est pas là. Bon, je voulais vous dire la rentrée politique, mais vous savez, on est la France. Moi, je trouve que tous ces discours-là, ça a aucun avenir, ça a aucun projet. C'est tout des vieilles recettes. Mais qu'est-ce que c'est de cette politique ? Il faut qu'il y ait des gens qui se déclarent, là. Il faut qu'il y ait des choses de neuves, de frais. Mais moi, les jeunes, ils vont pas voter. Moi, je parle avec les jeunes, mais les jeunes, ils peuvent pas aller voter. C'est pas possible. C'est des discours d'il y a 30 ans. Alors on nous dit le numérique partout, on nous met des QR codes, des machins, des amendes, on n'a plus le droit à rien faire, la liberté. Et on est dans des vieilles politiques, il faut des grands projets, mais des grands, il ne faut pas en mettre 10 000, il faut 3-4 grands projets.
Corinne, je peux vous poser une question ?
Oui.
Je ne vous demande pas votre âge, ça ne se fait pas une femme. Vous avez des enfants,
50,
vous avez des enfants ou même des petits-enfants peut-être, alors, petits-enfants non. Pour voter c'est compliqué, qui, ou des jeunes autour de vous qui vous disent, moi écoute, écoute ou écoutez, j'ai 25 ans, j'ai jamais voté par exemple.
Ah mais j'en ai plein. Non mais ils s'en foutent de la politique, personne ne leur parle. Mais personne ne leur parle. Je veux dire que j'ai l'impression que c'est de la politique de mes 20 ans. Mais mes 20 ans, il y avait au moins des politiques qui avaient de la culture. Qui ne faisait pas du VRP, des marchands de tapis. Non, mais tout est vieux. Tout est vieux. Moi, je ne sais pas, il y a des grands projets à faire pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Où on veut nous emmener tous ensemble ? Et puis, à un moment, il faut aussi... Moi, je trouve que le Covid, on nous a fait preuve d'autorité. Alors, j'ai des 135 euros, des QR codes, des machins, des choses inimaginables en France. Mais par contre, sur le régalien, mais Darmanin, mais moi, il me fait rire, ce Darmanin, là.
Alors, attendez, justement, on va faire réagir les vraies voix, parce que c'est un débat avec les vraies voix. Vous avez dit du bien, c'est mérité à Lydia Girous. On va faire réagir Michel Pouzol. Quand vous entendez Corinne qui dit, à l'époque, les hommes politiques, ils avaient de la culture. C'est vrai, excusez-moi, quand vous voyez un débat Giscard-Mitterrand et que vous voyez un débat Macron-Le Pen, c'était quand même autre chose, non ?
C'est clair qu'on a eu une génération d'hommes qui venaient d'une autre formation qui n'étaient pas les mêmes, mais c'est surtout tous ces hommes-là, quelles que soient leurs idées, étaient matricés par des formations politiques fortes et des idées fortes. Aujourd'hui, ce que je constate le plus, c'est que quand on a en face de soi des hommes et des femmes qui ont une structure politique forte, des convictions et une culture politique forte, en général, ils ne disent pas que les choses deviennent un peu plus intéressantes. Le problème, c'est qu'on a aussi une classe politique qui est convaincue que l'alpha et l'oméga de la politique, c'est le marketing. C'est-à-dire, c'est la punchline, c'est le tweet. Et effectivement, on a beaucoup de mal dans un débat à y mettre de la complexité sur les sujets complexes. Il faut aller à la simplicité. Or, je suis désolé, la plupart des sujets dont vous parlez, régaliens, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est des sujets qui demandent des explications complexes, parce que ce sont des systèmes complexes. Et puis, il y a un manque de vision pour ce qu'on veut faire, pour notre pays, où on veut l'amener, comment on conçoit l'avenir. Et puis le sentiment, après, moi je vais finir là-dessus, le sentiment qu'une fois élu, ceux qui ont voté pour eux ne sont plus entendus. Moi, je l'ai vécu en étant des deux côtés de la barrière, ce qui n'est pas l'exercice facile, mais voilà, je comprends cette déshérence.
Philippe Rossi, vous qui faites une chronique présidentielle, vous avez peut-être, pour faire plaisir à Corinne, déclaré votre candidature d'ici
quelques
jours.
Non, je ne vais pas le faire.
Qu'est-ce que vous voulez répondre à Corinne ?
Non, mais alors, je suis d'accord avec Michel Pouzol. Alors, ça va être ça, Corinne. Mieux vaut ne pas regarder les débats autour de la présidentielle, regarder plutôt l'inspecteur d'Éric, je crois que ça repasse sur France 3.
Ah bon ?
Parce que ça va être que ça. Hein. Ça va être des punchlines, ça va être du marketing, il l'a très bien dit, Michel Pouzol. Hein. Regardez Zemmour, il a fait 2-3 déclarations ce week-end, ils ont tous surenchéri 48 heures après, et ça ne voulait rien dire non plus, donc ça c'est pour le marketing, la punchline, et puis après c'est vrai que moi je regrette les Mitterrand, les Chirac, les Bérégovois, non ben si,
non, mais je suis d'accord
c'est vrai,
avec vous.
C'était des hommes
d'accord.
De stature, des hommes d'envergure.
Mais même Bérégovois qui avait juste un CAP d'ajusteur quand il parlait à la télé,
mais
ça voulait dire
quelque
chose.
Il avait les diplômes de la vie, Bérégovois.
Oui.
Voilà.
Aussi,
et
ça,
il
oui.
avait les pieds sur terre.
Peut-être qu'il faudrait des politiques qui ont des diplômes de la vie, peut-être.
Le problème c'est que
c'est peut-être ça qui manque.
J'ai un jeune parcours en politique, mais j'en ai quand même vu beaucoup des politiques. Durant mon parcours et avec les fonctions que j'ai pu exercer, j'en ai pas rencontré beaucoup qui ont envoyé des centaines de CV et qui n'ont pas trouvé un job. J'en ai pas envoyé beaucoup qui se sont retrouvés à un moment au chômage, à avoir la peur au ventre en se disant « mais comment je vais payer mon loyer ?» Ou j'en ai pas rencontré, que ce soit des jeunes
au moins aujourd'hui,
ou des plus anciens. Non, mais moi-même, j'ai connu ça. Enfin, je viens d'un milieu extrêmement populaire. Je suis née en Algérie, je suis immigrée moi-même, j'ai grandi à Roubaix. Donc cette vie concrète, cette difficulté-là, il y en a très peu qui le connaissent. Et puis la politique, le problème, c'est vrai qu'il y a un côté tristouné dans ce qui se prépare là pour 2022. En fait, le politique s'efface pour laisser la place aux communistes. On a des éléments de langage, on a des stratèges en communication qui vont vous formater les politiques, qui vont vous les lisser. Du coup, ils se ressemblent tous. Il n'y a plus de matrice idéologique derrière. Et donc, ça devient assez peu
intéressant. Et puis, si on veut parler aux vieux, entre guillemets, on va sur Facebook. Si on veut s'adresser aux jeunes, on va sur TikTok.
Ils sont interchangeables. En fait, ils sont interchangeables. Et c'est tout le problème. Et quand vous avez une voix un peu différente, quand vous parlez avec vos tripes, avec vos convictions, on dit que c'est trop. Et donc, on vous met des personnes qui sont beaucoup trop lisses. Sans intérêt, oui, parce que le robinet d'eau tiède, en réalité, c'est la fameuse complexité et subtilité macronienne. Hein, et c'est pour ça, je suis d'accord, il faudrait de la complexité. Mais la complexité, c'est devenu une espèce de mot-valise où on met en fait la lâcheté. Et ce qui manque véritablement, c'est le courage de faire. Parce que les Français sont intelligents, les Français sont informés. Ils savent quelles sont les difficultés qu'on rencontre leur pays. Et maintenant, ce qu'ils voudraient, c'est pas des constats, c'est pas d'énièmes études, c'est pas d'énièmes sondages. Ils veulent qu'on passe à l'action et qu'on fasse concrètement les choses. Et il y a une chose qui manque, et je crois que Chirac le disait, la grève d'une certaine partie du corps masculin, ça n'existe pas. Donc, on gagnerait à en faire en politique, parce que c'est ce qui leur manque véritablement.
Corinne, vous êtes d'accord avec les problèmes de manque de grève d'organes génitaux mâles, pour paraphraser cette chère Lydia Guiraud,
ouais, qui paraphrase Chirac.
Elle est excellente. Mais je voulais dire autre chose.
Corinne.
Je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire, vu le niveau de la France, parce que, bon, dépenser, moi, j'aurais été une bonne présidente, parce que j'ai toujours dépensé plus que mon salaire. Donc, moi, j'aurais été une excellente présidente. Enfin, dépenser, ça aurait été mon... Super. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est que maintenant, l'idéologie politique droite, gauche, extrême droite, moi, je m'en fous. La voiture, elle est en panne. Vous savez, quand dans la médecine, il y a 35 strates. Tout ça pour pas qu'il y ait de responsables. Mais tout ça, il faut éliminer. Toutes ces vieilles politiques qu'on recycle. Il faut arrêter tout ça. Donc maintenant, la voiture, elle est en panne. On veut pas la voiture de 2040. Il faut réparer la voiture de maintenant. Alors, il n'y a pas besoin de faire d'idéologie, il faut du pratique. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire, mais il faut prendre le
temps. Dites-nous une ou deux choses que vous voudriez voir faire, Corinne.
Ben moi, déjà, je voudrais qu'on nous parle comme à des adultes, parce que j'en ai marre qu'on nous infantilise. Je voudrais qu'on parle de l'émancipation de l'être humain, donc de l'émancipation, parce que moi, Monsieur Pujol, qui est de gauche, les repentances, les machins, non, l'émancipation, quand on est jeune, hein, dans notre culture, la France est un grand pays, c'est un beau pays qui a une belle histoire. Alors, moi, les repentances, tout ça, tout ce bordel, là, moi, qui perds des débats, là, qui nous emmerde, là, qui nous pollue le cerveau, faut arrêter, faut aller dans le pratique, maintenant. Je voudrais aussi, c'est pour la drogue. Moi, j'étais au Canada un an, en 91. Hein. Mais je veux dire, moi, quand je vois qu'il y a des jeunes qui ont 40 condamnations, mais à un moment, il faut mettre des commissariats à Marseille, avec des juges, des douaniers, contrôles fiscaux, et on les met en nord de la France, ils sont au sud, et interdits pendant 5 ans de venir. Et le Danemark l'a fait. Mais si on laisse pourrir ça, parce que moi je suis de gauche, alors si quand vous avez 10 000 personnes à Marseille, et qu'il y a 1000 mecs qui foutent la merde, moi je pense aux 9 000, je suis de gauche, parce que je pense aux 9 000 qui veulent élever leurs enfants bien. Et puis, les écoles...
Alors,
qui se cassent
la gueule. Corinne, on va faire réagir justement, par exemple, il y a Michel Pouzol, vous aussi, qui êtes de gauche, que vous entendez Corinne qui dit « il y a un manque de courage politique, Emmanuel Macron va demain à Marseille pour aller de sécurité, Éric Dupond-Moretti y était il y a quelques jours, où il a promis qu'on jugerait les gens beaucoup plus rapidement à Marseille, etc. » Est-ce que ce que dit Corinne, c'est pas vrai ? Notamment face au trafic de drogue, la lâcheté qu'il y a depuis des années, on achète la paix sociale. Il y a une vidéo qui est virale depuis hier soir sur Facebook, sur Twitter, pardon, où on montre carrément des checkpoints dans certaines cités, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un client reconnu des dealers de la cité, vous rentrez pas. C'est complètement fou.
C'est fou, mais là aussi, il y a une dimension qu'on a complètement occultée. Il y a un procès d'une mafia italienne qui a commencé il y a quelques mois, où on estime qu'ils sont à 87%. Dans 87% des trafics de cannabis européens, leur chiffre d'affaires, c'est 80 milliards d'euros par an. On a bien compris que c'est des empires qui sont en face. Donc le mec qui est au coin de la rue et qui dit son shit, c'est le petit bout de la chaîne d'un empire financier. C'est bien ça la problématique. Et ces mecs-là, quand on les chope, on arrive à les décaler, à les mettre ailleurs, effectivement.
quelqu'un va revenir, parce que le budget financier qui est derrière ces mafias-là est incroyable. Il y a des gens qui gagnent des fortunes là-dessus. Donc il faut casser ce système-là. Moi, je vous le dis, je suis, par exemple, pour la légalisation et la reprise en main de la vente de cannabis par l'État. Ça a des risques, c'est complexe. Mais il faut le faire.
Comme le tabac.
Oui, comme le tabac, parce qu'il faut casser ces industries-là. Et bien entendu, dans les quartiers, moi, j'ai connu ça en Seine-Saint-Denis, c'est extrêmement complexe d'aller chercher... Il suffit pas de trouver le type, hein, parce que le lendemain, il y en aura un deuxième qui va venir. Et un troisième. Et on voit à Marseille où ça en est. Les types, ils se tirent pas dessus simplement parce qu'ils jouent au cow-boy. Ils se tirent dessus parce que c'est des intérêts financiers gigantesques. Après, on a enlevé le nombre de policiers. On a enlevé la police de proximité. On a enlevé les gens qui, dans les quartiers, étaient là, patrouillés, en tenue, et que les gens voyaient, qui, y compris parfois, pouvaient choper un gamin avant qu'il tombe de l'autre côté de la barrière. On les a supprimés. Quand la police va dans un quartier comme ça, c'est ce qu'on voit dans le film
Back Nord, ouais.
Ils y vont parce que c'est pour la confrontation. Donc, on a laissé faire ça pour des raisons budgétaires, tout public confondu, toute majorité confondue. La première faute, pour moi, revient à la suppression. Il y avait déjà du trafic avant, il y avait des choses, mais ça a complètement changé, ça a complètement explosé, la police de proximité. Ça a été une grossière erreur de la suppression par Sarkozy. Ça ne suffit pas.
Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, la police de proximité? Oui, je sais, mais si elle s'est y retournée.
Elle s'est y retournée maintenant, c'est fini.
Elle se ferait dégager par les trafiquants, la police de proximité.
Mais elle n'a jamais servi à lutter contre la drogue, la police de proximité. Et la police de proximité n'a jamais empêché le deal. Et il avait raison lorsqu'il disait que la police n'est pas là pour faire l'associatif ou jouer au football avec...
Non, ça c'est de l'idéologie, ça n'est pas la réalité. Non, c'est de l'idéologie. Il faut quand même pouvoir dire aux gens de droite, ils font de l'idéologie quand ils en font. C'est pas l'apanage de la gauche, et là vous faites de l'idéologie.
Mais je pense qu'en fait, dans ces quartiers-là, le problème, et Corinne, je crois, l'a soulevé, c'est pas normal d'avoir une police qui arrête 10, 15, 20, 30 fois des jeunes, qui sont parfois extrêmement jeunes, ils vont faire un petit tour au commissariat, et puis ils sont relâchés. Et la peine, quand elle arrive, parce que c'est pas toujours qu'elle arrive, elle arrive 6 mois, 9 mois après, parfois 2 ans après, elle n'est jamais certaine, et du coup ne donne plus aucun sens à ces jeunes-là. Il faut que ce soit systématique et certain. Donc déjà là, on ferait un premier pas. Ensuite, moi, je trouve qu'il faut aussi investir dans des internats, non pas des internats d'excellence, parce que ceux qui sont déjà dans l'excellence et qui sont bons élèves, ils sont quasiment sauvés. Ça veut dire qu'ils ont des parents qui les encadrent. Mais tous les gamins qui sont souvent de familles monoparentales, qui traînent dans ces quartiers-là parce que leur maman, elle travaille, je sais pas, dans l'hôtellerie comme femme de ménage et qu'elle part très tôt le matin, elle rentre très tard le soir, exténuée, elle n'a pas les moyens de les encadrer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les dealers qui vont les prendre pour faire les choufs. Pourquoi on ne construit pas massivement des internats qui seraient des internats de non-excellence pour pouvoir encadrer ces gamins-là, pour les protéger, pour qu'ils ne dérivent pas vers la délinquance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une délinquance qui est de plus en plus forte, de plus en plus jeune, de plus en plus radicale, et en plus, qui se fait avec une radicalisation islamiste très importante dans ces quartiers-là, qui deviennent des zones de non-droit où vous avez des gamins qui organisent des guet-apens contre la police. Donc maintenant, l'angélisme, le côté excuse sociale ou cellule psychologique, je pense qu'il faut arrêter. Ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas, et on le paye très cher aujourd'hui. Maintenant, il faut les encadrer quand c'est encore possible, et surtout de l'autorité et de la fermeté avec des sanctions qui sont rapides et certaines.
Merci beaucoup à vous Lydia Guirous, merci beaucoup à vous Michel Pouzol, merci Corinne, vous avez été notre vraie voix du jour. Il fait beau à Chabonnie ?
Oui, il fait très beau. Il fait très beau, il fait un peu frais le matin, mais nous on est très bien, on a eu l'ultra trail, on a eu plein de monde au mois d'août.
Ça fait...
C'était très sympa, c'était très bien. Il faut venir à Chamonix, c'est très bien.
Moi, je vais faire une émission au pied du Mont Blanc avec un immense plaisir.
Je veux y participer. L'émission délocalise à Chamonix, je signe.
On est en train de prendre les inscriptions. Message à Patrick Roger et Bruno Dubois, la direction de Sud Radio. Philippe Rossi, ça se passe avec vous.
Oui,
ça va parler
les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de l'emploi, dans un instant, on va parler du télétravail et de cette casse sociale, ces faillites qu'on nous promettait, qui n'arrive pas. Et c'est tant mieux. Est-ce que le pire est à venir? C'est la question que l'on vous pose. Je serai avec des entrepreneur Julien Lozano, notamment fondateur de Wheezy, et le fondateur du cabinet de recrutement Sparterache. Voilà, à tout de suite.